Dimanche 22 décembre 2024, auditrices, auditeurs de Radio Mandeléo, bonjour et bienvenue pour suivre l'émission Paix et Développement. Vous nous écoutez dans la ville de Bukavu sur 88.8. Vous nous suivez en dehors de la ville de Bukavu, dans les trois autres villes du sud, Kivu et les huit territoires, sur 91.7. Vous nous suivez partout au monde à travers Internet via le www.radiomandeleo.info. Merci infiniment pour l'attention que vous nous accordez. Au menu de cette émission, la tripartite entre les présidents congolais Félix Tshisekedi, le Rwandais Paul Kagame et l'Angolais João Lourenço prévue dimanche 15 décembre à Luanda pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC a été annulée, raison l'incapacité de la RDC et du Rwanda s'accorder sur un engagement en faveur des pourparlers directs entre Kinshasa et la rébellion du M23, une condition exigée par Kigali mais fermement rejetée par Kinshasa. Le problème s'est posé quand le Rwanda a insisté sur l'inclusion dans l'accord d'un dialogue direct entre la RDC et le M23, chose que la RDC a toujours rejetée, fait savoir des sources diplomatiques congolaises. Le président Félix Tshisekedi réaffirme la position de la RDC, rejetant toute négociation directe avec le M23 devant les membres de sa famille politique, constituée des députés, sénateurs, membres du gouvernement et présidents des regroupements politiques et partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. Le président de la République a été ferme hier samedi. Je cite, nous restons intransigeants à ne pas négocier avec le M23 qui n'est autre que le Rwanda déguisé. Même s'il parvenait à conquérir l'ensemble du territoire national jusqu'à arriver à la porte de ma résidence qui est la cité de l'Union africaine. De son côté, le président João Lourenço, facilitateur désigné par l'Union africaine pour cette crise, s'est dit profondément préoccupé par la situation. Il exhorte les partis à prioriser l'intérêt de leur peuple ainsi que leurs objectifs communs. Sur le terrain, des affrontements sont rapportés entre l'armée et les rebelles du M23, principalement dans le territoire de Lubero, non loin de Butembo. Quelle lecture faire de cette situation? Quel avenir apportez-vous à cette discussion? Nous en parlons avec des acteurs dans l'émission Paix et Développement de ce jour. Bien avant cela, un autre sujet au menu de l'émission de ce jour. 17 sujets chinois sans identité ni permis de séjour en RDC ont été arrêtés et présentés à la presse le vendredi dernier à Bukavu. Ils exploitent de l'or au site de Karembo dans le groupement de Rubimbi en territoire de Walungu pour le compte d'une société qui ne dispose pas de permis d'exploitation. Ils ont été appréhendés à l'occasion d'une mission d'itinérance organisée par le ministre provincial de Finances Bernard Mouindo, assurant l'intérim de son collègue de mine, la députée provinciale Béatrice Nanvano, élue de Walungu, et une équipe de la Direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes DPMR. Au-delà des Chinois, 6 Congolais, un traducteur burundais ont été arrêtés pendant ces temps. Le service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et des petites échelles, SAMAP, a intercepté le 18 décembre dernier à 6h du matin plusieurs colis d'or en provenance de Matili en territoire de Shabunda. Ces colis étaient transportés par un militaire du grade de capitaine. Il avait donc 2 colis d'antin de 640 grammes appartenant au propriétaire des dragues du même coin et un autre colis non pesé appartenant à ses responsables au sein de l'armée. Selon une source, les colis appartenaient donc au civil. Le colis appartenant au civil a été remis au service de l'État, mais l'autre a été emporté par le militaire en question. D'aucuns invitent la 33e région militaire et l'auditorat militaire de chercher activement les concernés pour les déférer devant leur juge naturel. Quelle lecture faites-vous de l'exploitation illicite des minerais au sud Kivu? Comment faire pour bloquer ce système afin de permettre aux ressources minérales de profiter non seulement à la province du Sud Kivu et de façon globale à la République? Nous en parlons dans l'émission Paix et Développement de ce dimanche 22 décembre 2024. Mise en onde, Jean-Claude Ndagué devant ce micro pour la présentation Expédie Kialou. A vous tous une fois de plus, bienvenue.
Chai with lots of iliki, no problem. Hakuna.
justement, merci donc à vous, très chers auditeurs, pour l'attention que vous nous démontrez. Surtout, bonne fin de l'année 2024, bonne festivité de fin d'année à chacun d'entre vous. Avant justement de vous présenter les invités, nous allons revenir sur un fait et en marquer l'actualité le long de la semaine. En effet, Wilunja Pongo Claude est confirmé et en droit du pouvoir coutumier dans le village de Moulima, groupement de Basilocha, secteur de Tanganyika, en territoire de Fizi. Ceci suivant la décision contenue dans la sentence prononcée au premier degré par la commission consultative de règlement des conflits coutumiers, CCRCC Tanganyika, est prononcée publiquement vendredi dernier en présence des parties en conflit, en quoi le Mwami Kalenga Riziki, président provincial de la CCRCC, la commission a reçu les recours de Kilewatano Matumaini contre la sentence prononcée par la CCRCC Tanganyika en octobre dernier lors de l'examen du dossier au premier degré. À la CCRCC Tanganyika, Boniface Mlema a été opposé à Wilunja Claude et Kilewatano Matumaini n'était ni partie plaignante ni défendresse, mais plutôt comme renseignant dans le dossier de conflit de pouvoir coutumier dans le village de Moulima. Cette sentence déclenche le processus de régularisation et invite donc l'administrateur du territoire de Fizi à prendre un acte de régularisation. Nous nous retrouvons dans ce studio avec le Mwami Kalenga Riziki Luango, qui est président provincial de la commission consultative de règlement des conflits coutumiers, CCRCC. Sa Majesté le Mwami Kalenga, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous l'avez suivi avec nous. Nous constatons que la commission devient de plus en plus active pour le règlement des conflits coutumiers. Qu'avez-vous procédé pour en arriver là?
Écoutez, c'était en fait, je peux dire, un long chemin que nous avions fait. Mais bien évidemment, vous savez que pour arriver en fait à la commission consultative des règlements de conflits coutumiers au niveau provincial, il y a eu d'abord l'installation, si vous voulez, des CCRCC au niveau des chefferies et secteurs. Et de là, maintenant, il y a eu désignation par de nos pères, en fait, qui ont mandaté en fait un chef coutumier au niveau de chaque territoire. Donc c'est au niveau maintenant des territoires, il y a 8 territoires dans la province du Sud-Kivu, où il y a une désignation maintenant d'un comité, un comité provincial qui est présidé par votre modeste en fait humble invité, mais également il y a un vice-président, à l'honorable, pardon, les Mwami Kisala, et bien évidemment ce comité, il est assisté par un secrétariat technique qui est composé en fait de 2 membres. L'un est venu en fait de la société civile et l'autre, il est un agent de l'administration et plus précisément de la division provinciale des affaires coutumières. Bon, si j'ai tenu en fait à faire ces requis, c'est parce que il y a nécessité à pouvoir en fait essayer de faire comprendre nos auditeurs qu'est-ce que la CCRCC. La CCRCC en fait tire son fondement par rapport en fait même à la Constitution, à l'article 207, tenez, il est dit que l'autorité coutumière est reconnue. Et au pied 4, je crois, alinéa, au pied de cet article, on dit une loi fixe les statuts des chefs coutumiers. Donc là, nous sommes maintenant en 2015, où il y a eu, en fait, la promulgation de la loi fixant les statuts des chefs coutumiers. Et si vous avez, si lorsque vous allez consulter en fait cette loi, vous allez constater qu'à l'article 35, plus précisément, on circonscrit pratiquement les champs de travail où la CCRCC est appelée à travailler. Et à l'article 36, au deuxième alinéa, on précise maintenant qu'un arrêté peut être, non, un arrêté, pardon, va être pris par les ministres des titres. Les ministres des titres, c'est qui? C'est le ministre de l'Intérieur. Aussi, nous avons en fait les vice-ministres qui aujourd'hui est en train d'encadrer en fait ce secteur des autorités coutumières. Donc voilà, il y a eu l'arrêté 006 qui pratiquement organise, donne le fonctionnement pratiquement des CRCC dans toute la République démocratique du Congo. Donc partout, il y a des commissions consultatives des règlements des conflits coutumiers, à l'occurrence au niveau des secteurs, au niveau des chefferies et au niveau provincial. Ici, en province de Sud-Kivu, nous avons déjà une CRCC, nous avions réussi 21 dossiers qui se trouvent par devant nous. Nous avions commencé à étudier ces dossiers à partir du 2 décembre jusqu'au 20 décembre de cette année. Et là, maintenant, nous avons traité 18 cas. 18 cas. Et si vous faites des calculs, vous allez comprendre que nous avions pu quand même atteindre 85% dans les traitements de ces dossiers. Et parmi ces 18 cas, il y a un dossier que nous avions pu prononcer la sentence que vous venez justement de rappeler.
Sa Majesté, quelle est la valeur juridique justement des décisions qui sont rendues par la Commission consultative de règlement des conflits coutumiers, CCRCC, sachant que les juridictions sont également à côté et peuvent rendre des décisions de justice?
Ah oui. L'arrêté là, lorsque vous allez examiner toutes les dispositions de cet arrêté, vous allez comprendre qu'on a dessaisi en fait les cours des tribunaux, les dossiers de conflits de pouvoir coutumiers, qui sont des désordres, les conflits de pouvoir et les conflits des limites. Donc aujourd'hui, ne perdez pas votre temps. Lorsque vous avez un conflit coutumier avec, je ne sais pas, un frère, avec, je ne sais pas, avec quelqu'un, d'aller en justice, parce que même la justice, elle est informée aujourd'hui que non, elle ne peut pas se prononcer sur un dossier de conflit des pouvoirs coutumiers. On va vous référer à la commission consultative des règlements des conflits coutumiers. Donc, au niveau des secteurs de chefferie, là, on examine en fait ces conflits au niveau des premiers degrés. Et c'est lui qui se sent en fait lésé par rapport à la sentence qui est en fait prononcée. Il va faire recours en dehors un mois. Et son recours va être adressé au niveau de la commission constatée des règlements des conflits coutumiers ici en province de Sud-Kivu. Donc nous, à notre niveau, nous examinons en fait ces dossiers en deuxième degré. Et voilà, si vous avez pratiquement raison par rapport à votre par rapport à la requête que vous aviez introduite, mais non, vous donnez votre raison. Donc à notre niveau maintenant, nous allons transmettre les dossiers à son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Sud-Kivu, parce que la CRCC, c'est un organe consultatif. Le gouverneur de la province de Sud-Kivu va constituer les dossiers, il transmet la sentence telle que prononcée au niveau du ministre ayant en charge, en fait, qui encadre pratiquement ce secteur. Donc, voilà.
Sa Majesté, est-ce que vous avez, certes, vous êtes moi-même, est-ce que vous avez rencontré l'adhésion de vos collègues à cette initiative de la commission consultative? Parce que vous pouvez vous activer sur le terrain pour instruire les affaires pendantes, instruire les dossiers, mais en fin de compte, après le prononcé de la décision, vous allez sentir une certaine résistance. Est-ce que tous les chefs coutumiers du Sud Kivu sont sensibilisés sur la question?
Les chefs coutumiers du Sud Kivu sont suffisamment sensibilisés sur la question. Mais comme vous le savez, le pouvoir, c'est le pouvoir. Hein, le pouvoir, en fait, lorsque vous êtes en train de gérer une entité pendant 10 ans, 20 ans, et on vous dit que non, non, ce n'est plus vous, c'est l'autre, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de légitimer, en fait, les pouvoirs coutumiers et de stabiliser, voire même, cette entité ou cette, la province, pratiquement. Regardez, toutes les entités coutumières, presque d'ailleurs, sont gangrénés par des conflits coutumiers. Et c'est là, c'est un caillou pratiquement dans la botte du gouvernement provincial. Parce que, on dit la décentralisation a comme fondement, le développement doit partir de la base. Or, la base là, elle est déjà,
en mouvement, elle est agitée.
Elle est très agitée, elle n'est pas stable. De par même la gestion de ces entités-là. Et vous allez comprendre que le gouverneur de la province peut bien fournir des efforts, au niveau du sommet de la province, mais du moment où il y a des problèmes au niveau de la base, en tout cas, dites-vous que nous avons encore des problèmes.
Vous, individuellement, vous, comme responsable de cette commission, vous ne subissez pas des menaces venant de par-ci, par-là, pour justement vous contraindre à vous dessaisir de cette démarche?
En tout cas, on était déjà préparés. Parce que on subit des menaces. Et ces menaces viennent des politiciens. Plus principalement des politiciens. Je lance un appel aux politiciens, en tout cas, à pouvoir faire une démarcation entre la politique et la gestion de la coutume. Donc, écoutez, nous sommes coutumiers. Nous avons laissé les politiciens aller gérer en fait la province. Mais pourquoi toujours leur bras, la main, on cherche à allonger leur main jusque dans la gestion même des entités coutumières? Non. Et vous allez voir que ce sont ces politiciens-là qui pratiquement nous mettent dans une situation très difficile. Il y a bicéphalisme dans ces entités coutumières à cause justement de ces politiciens-là.
Sa Majesté, après le village de Moulima dans le groupement de Bassilocha, quelle autre affaire va suivre?
Ah oui, parce que nous avions prononcé en fait la sentence de quoi ici à Bukavu, parce que nous avions estimé que les dossiers étaient enrichis quand même par rapport aux éléments qui étaient en notre possession.
C'était au second degré.
En second degré. Et les 17 dossiers que nous avions pu déjà auditionner, les antagonistes, nous sommes obligés en fait de déporter sur terrain, aller faire des enquêtes approfondies pour ne pas en fait prononcer des sentences sentimentalistes.
Merci beaucoup, Sa Majesté.
C'est moi qui vous remercie.
Nous vous remercions pour la participation à Paix et Développement de ce jour.
Merci beaucoup.
Au plaisir de vous retrouver un autre dimanche pour parler des activités de la commission consultative.
Mais écoutez, je profite en fait de votre micro pour demander à son excellence monsieur le gouvernement de la province d'ici Kivu à pouvoir soutenir la CCRCC. La CCRCC est un instrument qui va devoir aider le gouvernement provincial à résoudre les différents problèmes que nous connaissons au niveau de la base, donc des secteurs échevérés. En tout cas, c'est un appel pressant que je lance en fait à l'autorité provinciale. J'espère qu'il est en train de suivre cette émission et il va pouvoir en fait s'engager pour soutenir la CCRCC provinciale.
Merci beaucoup. À l'introduction, vous l'avez entendu, le service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et des petites échelles SAMAP a intercepté le 18 décembre dernier à 6h du matin plusieurs colis d'or en provenance de Matili en territoire de Chabundam. Ces colis étaient transportés par un militaire du grade de capitaine. Il avait deux colis, dont un de 640 grammes appartenant au propriétaire des grades du même coin, un autre colis non pesé appartenant à ce responsable au sein de l'armée. Selon une source, le colis appartenant au civil a été remis au service de l'État, mais l'autre a été emporté par le militaire en question. D'aucuns invitent la 33e région militaire et l'auditorat militaire de chercher activement le concerné pour le déférer devant leur juge naturel. Et 17 sujets chinois sans identité ni permis de séjour en RDC ont été arrêtés et présentés à la presse vendredi dernier. Ils exploitent de l'or au site de Karembo dans le groupement de Rubimbi en territoire de Walungu pour le compte d'une société qui ne dispose pas de permis d'exploitation. Ils ont été appréhendés à l'occasion d'une mission d'itinérance organisée par le ministre provincial des Finances, Bernard Mouindo, assurant l'intérim de son collègue des mines. La députée provinciale Béatrice Nanvano, élue de Walungu, et une équipe de la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes des PMR. Le ministre provincial des Finances, Bernard Mouindo, qui a conduit ces délégations, indique qu'en plus de ces sujets chinois arrêtés, cette bande a été constituée également Congolais, mais aussi un traducteur burundais. Ils étaient au nombre de 6, les Congolais et un Burundais. Tous ont été arrêtés, quelle que soit l'influence, ou disons les influences d'ici et d'ailleurs. Le ministre signale que le gouvernement provincial ira jusqu'au bout dans sa démarche visant à faire profiter à la RDC et aux Congolais les ressources minérales. Pour en parler, nous recevons de façon particulière le ministre provincial de Finances et Économie au Sud Kivu, M. Bernard Mouindo. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Nous recevons dans ce studio Maître Néné Bintou, qui est présidente du bureau de coordination de la société civile au Sud Kivu. Maître Néné, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Expedi.
Nous recevons dans ce studio Blaise Maseka, qui est Prosec, du parti politique FPCN au sud Kivu, Blaise Maseka, bonjour.
Bonjour, Expedi.
Nous recevons Christian Biaombe Malumalu, qui est doctorant à l'UCL Louvain et enseignant à l'université officielle de Bukavu, chercheur en question des ressources minérales. Christian Biaombe Malumalu, bonjour, bienvenue.
Bonjour, monsieur Spedi.
Baraka Joseph, il est de l'Institut Patrice Emery Lumumba. Baraka Joseph, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs et auditrices.
Maître Biamungo Kazimiri Samuel, qui est militant du bloc uni BUDEC. Biamungo Kazimiri Samuel, bonjour, bienvenue.
Bonjour, Expedi, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Monsieur le ministre, la mission a été effectuée dans le groupement de Rubimbi en territoire de Walungu. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement provincial à entreprendre une telle démarche?
Ah oui, d'entrée de jeu, je veux dire que il y a quelques mois, le gouvernement provincial du Sud Kivu, par l'instruction du gouverneur, a suspendu les activités minières dans la province parce qu'il veut assainir l'environnement pour permettre au gouvernement de savoir tous les acteurs qui travaillent dans les mines au sud Kivu. À la suite de cette activité-là, certaines sociétés minières ont signé des engagements pour se mettre en ordre parce que la plupart, on a constaté qu'ils n'avaient pas de documents. Et certains avaient des documents en cours des traitements, notamment des sociétés qui exploitaient déjà, alors qu'ils ne détenaient que de permis d'exploration. Et ces sociétés-là ont pris des engagements, des régulariser en termes de papiers, mais aussi, ils ne payaient pas les taxes, les taxes de la province. Alors, moi, en tant que ministre des Finances, vous le savez très bien, on vient de signer et on vient de voter plutôt un budget très 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 ambitieux pour permettre au gouverneur des provinces et son gouvernement de réaliser son plan de développement de la province. Et c'est un projet et un budget qui est techniquement des fois plus costaud que le budget qu'on a connu avant. Et cela nécessite un travail sérieux sur le terrain, dans le cadre de la mobilisation des recettes. Et donc moi, en tant que ministre des Finances, j'ai entrepris de suivre là où la commission instituée par le gouverneur s'est arrêtée. Et donc on a pris l'initiative d'appeler toutes ces sociétés-là, l'une après l'autre. Et on a commencé par la société Primera Gold. On a appelé Primera Gold, on a échangé. Et Primera Gold nous a aidés, parce que Primera Gold payait ses droits, ses taxes au niveau de la DGDA. Et la direction de Primera Gold a aidé la province à récupérer ce qui lui revient des droits comme rétrocession. Et ces paiements ont été reçus. Après Primera Gold, il y a eu la société Bendera Mining, qui opère dans les territoires de Fizi, qui a aussi pris des engagements et qui a payé. Après Bendera Gold, on est allé à Rubimbi. Il y a cette société chinoise qui changeait de nom. Avant, c'était Golden Oxen, après c'est Golden Construction, après c'est Golden Mining. Et au finish, on est allé visiter. Parce que ces sociétés, partant des actes d'engagement qu'ils ont signés, ils devraient venir régulariser en ayant une certaine période. Et on a constaté que, bon, voilà, quand on ne suit pas, ces sociétés ne viennent pas. Et comme vous le savez, la règle est simple. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet va à la montagne. Et donc, on est parti. C'est tombé vraiment un bon moment parce que il y avait le ministre des Mines qui était en mission. Et moi, j'assumais son intérim. Donc, je suis parti avec double casquette comme ministre des Finances, intéressé par les recettes de la province, et ministre des Mines pour le contrôle. Parce qu'au-delà des recettes, il y avait aussi d'autres aspects liés à l'environnement, liés à la documentation, et on devait faire ces contrôles documentaires. Et on a aussi associé, parce que c'est la nouvelle approche, on a donc associé la députée provinciale honorable Béatrice Nanvano, qui est l'élue de là-bas, hein, de Rubimbi, à Walungu. Donc, on a associé également l'équipe de la DPMR, ce sont les spécialistes des taxes. Hein. Et comme c'était dans le secteur minier, on a pris aussi des ordonnateurs qui ont la maîtrise de mines. Hein. Voilà, donc on est parti. On est arrivé là le 18, bien sûr, on est l'administration publique. On a avisé notre arrivée. Malheureusement, comme vous le savez, au Congo, et surtout ici au Sud-Kivu, il y a des pratiques qui se sont installées où on fait barrage à l'autorité provinciale d'accéder au site minier pour faire son travail. Et donc, on est arrivé sur les sites et on a trouvé, je ne sais pas, 30-40 policiers qui se sont présentés comme une police des mines et qui ont essayé de nous barrer la route. Bon, après, il y avait aussi une Jeep Land Cruiser avec un chauffeur congolais et à côté de lui un autre congolais et accompagné d'un policier non armé qui nous ont barré la route techniquement, jurant qu'il devrait mourir pour nous laisser passer. C'était très déplorable. Mais bon, après discussion, nous sommes entrés dans le site, on a fait le contrôle. Le communicateur de la société, c'était aussi un Congolais, qui nous a accueillis et qui nous a présenté 6 Chinois. 6 Chinois et quelques Congolais. Et il nous a dit que, bon, voilà, sur ces sites-là, il faut encore des recherches, ils n'ont pas encore commencé l'exploitation. Mais voyant les engins sur le terrain, voyant l'état du site, on pouvait bien dire qu'il y a eu exploitation et l'exploitation continue. Parce que le site en question s'étend sur plus de 3 hectares. Mon estimation, je n'ai pas compté, mais je peux dire autour des 3, 4, même 5 hectares où la découverture a été faite complètement. Les lits de la rivière a été dévié. Et c'est la rivière Kombo et une autre rivière à la frontière entre les territoires de Walungu et les territoires de Mwenga. Et vous devez comprendre, le mois Mikalenga est parti, mais il pourrait nous éclairer là-dessus. Dévier une rivière qui sépare des territoires peut causer des conflits entre les deux territoires, les conflits coutumiers. Et donc ce n'est pas une question à négliger ou à passer juste comme ça. Bon, pour revenir à la question d'identité, les Congolais n'ont présenté aucune identité, les Chinois qui nous ont présenté n'avaient sur eux aucune identité, on était dans l'exercice des civilités, nous on est arrivés, on a présenté nos documents, mais eux, ils n'avaient rien comme document. Pas de document d'identité pour les personnes qui étaient devant nous, pas des documents de société, vous savez, le RCCM, l'identification nationale, statut, quelque chose qui pouvait nous montrer qu'il y a une société en opération. Et aucun document en termes de permis d'exploitation ou permis de recherche ou autres documents, pour les experts en mine, ils savent ces documents-là. Et du coup, on a expliqué l'objet de notre mission. Et la mission, dès le départ, a commencé sur une mauvaise note. Parce qu'il n'y avait pas l'intention de collaborer. Que ce soit les Congolais ou les Chinois, ils ont fait les sourds-muets. Donc ils ne parlaient ni français, ni anglais, ni swahili, ni lingala. Et nous, on s'est dit, mais ces gens, comment ils travaillent? Comment ils travaillent dans cette communauté ici, alors qu'ils ne parlent pas la langue locale, ils n'ont pas d'interprète qui parle chinois, qui parle... Bon, bref, on s'est dit, bon voilà, on va faire les tours du site. Et le camp, comme il est installé, la base où les Chinois et les Congolais s'installent est loin de l'endroit où l'exploitation se passe. Vous voyez? Et ils ne voulaient pas qu'on se rende là-bas où l'exploitation se passe. C'est à quelques kilomètres de la base. Vous voyez? Bon, bref, on a demandé aux Chinois de nous montrer s'ils ont de la matière. hein, de l'or ou quelque chose, personne n'a parlé. Personne n'a voulu parler. Et on nous dira que, bon, voilà, les documents de la société se trouvent à Bukavu. Hein, donc, si on vient à Bukavu, on verra tous les documents dans les bureaux de la société dont on ne connaît pas les noms. Bon, à ce niveau-là, nous, on va dire, écoutez, les amis, comme on est là pour le contrôle, on va faire les tours. Mais avant même qu'on efface les tours, les Chinois, on a commencé à les repérer. Hein? Certains venaient des tentes, d'autres venaient du site, et parce qu'on est arrivé là autour de 11 heures, j'imagine c'était presque l'heure de la pause. Donc, en un clin d'œil comme ça, on a eu 34 Chinois devant nous. Et on a demandé aux Congolais, mais messieurs, vous nous avez dit qu'il n'y avait que 6 Chinois ici. D'où viennent les autres? J'espère que vous ne fabriquez pas les Chinois ici, chez vous. Vous ne fabriquez pas les Chinois. Et c'est après, quand on a fait un peu de pression, qu'ils nous ont dit qu'il y aurait une soixantaine de Chinois. On n'a pas vu tout le monde. J'imagine que d'autres sont allés se cacher dans la montagne ou je ne sais pas où.
Vous d'autres étiez dans les activités d'exploitation également.
Oui, vous savez, le site est dans la vallée. Hein, le site est dans la vallée. Et pour y arriver, vous descendez hein, dans les montagnes. Et on pouvait écouter de loin, hein, on pouvait entendre de loin les sons des machines. Hein. Bon, le son des machines, et quand on est arrivé, bien sûr, on a fait les tours, on a vu des dragues, on a vu des laveries, on a vu des motopompes, on a vu plus de 30-40 camions bennes, dont certains étaient en activité, et d'autres étaient garés, je pense, pour la maintenance ou quelque chose comme ça. Et quand on est allé vers les fonds du chantier, et là, on a trouvé, là où l'activité se faisait, tout était frais. Hein, tout était frais. Les machines, on pouvait toucher les machines qui étaient encore chaudes du moteur, hein, les excavatrices qui étaient encore en mouvement, et les experts amis nous ont dit, ici, si on arrête les motopompes, à moins d'une heure, le site sera rempli d'eau. Ouais, le site sera rempli d'eau. Bon, bref, on a décidé, hein, quand ils ont vu qu'on était vraiment sérieux, et ils nous ont proposé un peu d'argent. Comme d'habitude. Hein, on a décliné l'offre, bien sûr. Et moi, je dirais à ce niveau que on a quand même de bonnes personnes dans ce pays. Et si on continue avec cet élan-là, on pourra changer des choses. L'honorable Béatrice était très déterminée. C'est vraiment une battante. L'équipe de la DPMR également. Et les policiers qu'on avait avec nous et l'équipe des militaires qui nous ont escortés, tous étaient le même esprit. Hein, bien sûr, il faut un peu de tonus, un peu de leadership pour que les gens puissent s'adapter au mode d'opération hein, qu'on avait adopté. Ils nous ont proposé de l'or, hein, 165 grammes, qu'ils ont produit ces jours-là. Et nous, on s'est dit, mais comment ces gens, ils ont de l'or, alors qu'ils nous ont dit qu'ils sont encore en phase
de recherche.
Vous voyez, donc il y avait beaucoup de contradictions dans leurs propos, hein, pour les peu de temps qu'ils ont parlé. Et donc, on s'est dit, on les prend, on va à Bukavu, on va voir les documents qu'ils ont, on va les étudier, et on pourra faire des sanctions en termes d'amende, parce qu'ils exploitent. Sans permis d'exploitation. Et il y a d'autres charges hein, qui sont stipulées dans le code minier. Alors, on les a ramassés, comme ça on est rentré à Bukavu, et on les a présentés, bien sûr, devant l'autorité provinciale, chez le gouverneur de province, qui les a reçus. Et il leur a donné à manger. Vous savez, lui, c'est quelqu'un qui vient de la société civile et monde humanitaire. La première des choses, il leur a donné à manger. Nous, on n'a pas eu à manger, hein, parce qu'il y avait quand même 17 Chinois, 6 Congolais, un Burundais et toute l'équipe.
Sur la trentaine, pourquoi vous avez ciblé essentiellement 17?
On n'avait pas de moyens logistiques pour prendre tout le monde. Et l'objectif pour nous, ce n'était pas de les arrêter. Vous voyez, l'objectif pour nous, c'était de faire les contrôles pour qu'on arrive à la concrétisation de l'acte d'engagement que les sociétés minières ont signé. Vous voyez, et donc, on a pris des Chinois sur les sites, plus un Congolais. En cours de route, vers 21h, 22h, on va trouver les autres Chinois qui étaient en fuite. Ben, je ne sais pas comment ils opèrent ces gens, mais j'imagine, comme on est passé et qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde, ils s'étaient dit qu'on reviendrait. Et si on reviendrait, certainement on viendrait avec de la logistique ou pour arrêter les gens, donc ils devraient vider les sites. Hein, ils devraient vider les sites. Si on revient, on ne trouve pas d'autres Chinois. Et donc les propos que nous on ferait, les déclarations qu'on ferait seraient contradictoires à la réalité qu'on trouverait sur les sites, parce qu'il n'y aurait plus de Chinois. Vous voyez? Et on les a interceptés en cours de route. Ils étaient derrière nous en fait. Parce qu'on a fait quand même pas mal de stops en cours de route, on a connu des pannes de véhicules et d'autres soucis. Et là, ils sortaient déjà, on les a interceptés et on les a acheminés tous à Bukavu.
C'est comme ça que vous êtes arrivés à Bukavu, vous les avez présentés le vendredi dernier. Depuis vendredi aujourd'hui, nous sommes dimanche, quel sort leur sera réservé en réalité?
Bon, vous savez, l'État congolais... Quels que soient les défis qu'on connaît, on fait quand même des efforts de respecter la loi. On les a détenus pendant garde à vue pendant 48 heures. Et dès là, on les a ramenés à la DGM. Parce que la question des visas ou des passeports ne relève pas des prérogatives du ministère des Mines ni des Finances. Donc on les a ramenés à la DGM pour que la DGM fasse son travail. Et au niveau de la DGM, on leur a donné... Après vérification des documents, on les a amenés à l'hôtel où ils sont logés sous surveillance. Parce qu'après interrogation, on a trouvé que certains parmi eux devraient quitter le pays le mardi prochain. Ouais, ils devaient rentrer chez eux pour les fêtes et d'autres devraient rentrer sur les sites. Et donc maintenant qu'on a l'information complète sur les uns et les autres, les Congolais, on a trouvé que c'est des taximen qui opèrent sur la station à essence à Bukavu, et ils font la ligne Bukavu, Jabunda, Bukavu, Alungu, et bien comme ça. Et on les a libérés. On a libéré les Congolais, sans condition. Hein. Mais on a gardé les Burundais, on a gardé les Chinois. Et voilà.
Et puisqu'ils sur le site, ils vous ont dit que leur bureau était à Bukavu, est-ce que vous avez retrouvé leur bureau, est-ce que vous avez échangé avec les responsables de la société, soi-disant anonyme, qui a pour siège la ville de Bukavu?
Oui, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en très peu de temps. Hein. En 48 heures, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les appels, les petites menaces, les encouragements et tout ce que vous voulez. Mais curieusement, ils nous ont envoyé le vendredi dans la journée, ils nous ont envoyé quelques responsables congolais qui sont venus sans documents non plus. Et comme la réaction, vous savez, on les a renvoyés. Parce qu'on est venu voir les documents, mais les responsables viennent sans documents. Donc on les a renvoyés et on a trouvé que c'était une blague. Où certainement ils ne prenaient pas la chose au sérieux. Et ils sont revenus hier samedi avec quelques documents. Et les documents que moi j'ai vus, c'était les statuts d'une société, la Golden Construction, SARL, et Golden Mining International, SARL, appartenant au même patron. J'ai pas vu les RCCM, j'ai vu l'identité nationale, j'ai vu l'identification fiscale d'une société à d'autres. J'ai vu un acte de cession d'une société qui ne leur appartenait pas. Donc c'était un amalgame de documents, pas très structuré.
Il n'y a pas de permis d'exploitation?
Il n'y a pas de permis d'exploitation. Il y avait un PER, un permis de recherche. Pour une société, et c'était tout. Si on partait de ces documents-là, on verrait certainement beaucoup d'irrégularités. Voilà. Donc, après un temps, un autre responsable va arriver, il s'est présenté, que lui, il est arrivé de Kinshasa. Ben, en très peu de temps, ben, c'était quand même une bonne chose, parce qu'on voulait parler à un responsable, un Chinois. Il s'est présenté, on a commencé à échanger, on lui a présenté la fiche des greffes que nos experts ont préparée. Et tout était calculé sur base des estimations, parce qu'ils ne nous ont pas présenté les statistiques des productions. Ils n'ont même pas reconnu qu'ils sont en production. Vous voyez, et tout pouvait partir de là. Et donc, il y a des amendes liées à tout ce qui est stipulé dans la loi.
Ça, on peut l'évaluer à combien le manque à gagner cette société chinoise qui opère à Walungu sur place à Rumimbi orchestre pour d'abord la province du Kivu.
Techniquement, on dirait en termes de millions. En termes de millions. Parce que, écoutez, je ne suis pas expert en mine, donc je ne peux pas vous dire exactement mot à mot, mais par rapport à ce que j'ai vu, ils exportent l'or qu'ils exploitent en RDC et ils ne rapatrient pas les recettes, disons les revenus. Et il y a une pénalité pour ça. Ils exploitent ou ils font l'activité minière sans documents. Ok, on appelle ça quoi? Commerce illicite, ou quelque chose comme ça. Exploitation illicite. Ils n'ont pas de permis d'exploitation, mais ils font l'activité, et ils sont dans l'artisanat, mais ils ont des machines d'ordre industriel. Vous voyez? Donc il y a des pénalités, toute une série de problèmes qu'on a identifié. On ne parle même pas de l'environnement, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas un arrangement spécifique avec les communautés locales ou la chefferie.
Le taux évalué à combien de millions, monsieur le ministre?
Il n'y a pas un chiffre précis parce qu'il y avait des tâtonnements. On était à 4 millions, l'autre expert a proposé 10 millions, finalement on leur a présenté la fiche de 10 millions. Et ils nous ont dit, écoutez, même notre capital d'investissement n'est pas de la hauteur de 10 millions. Il est évident qu'il faut encore une commission d'enquête pour qu'ils aillent là-bas, déterminer l'ampleur des dégâts, déjà au niveau de la dégradation et de la destruction de l'environnement. Il faut évaluer les coûts de ces machines-là, si on devrait les saisir ou je ne sais pas quoi. Donc il faut évaluer pour vraiment, et qui nous présente les statistiques, parce qu'il y a quand même des amendes qui sont aussi liées à la production. Cette production-là est évaluée. Nous, on a pris une estimation de 100 kilos. Okay? Ils nous disent qu'ils occupent les sites depuis 2023, sans déterminer le mois, mais les sites étaient inondés, ils devraient faire la découverture, donc ils ont commencé à faire les carottages, les forages à gauche, à droite, seulement au mois de mai. Après, il y a une suspension par le gouvernement provincial des activités minières. Donc, c'est vraiment un mélange d'informations, un mélange aussi des circonstances. Mais ce qu'on a vu vraiment sur le terrain, il n'y a pas eu de carottage. Zéro.
Monsieur le ministre, jusqu'où irez-vous, avant de parler de la suite de la démarche, jusqu'où irez-vous avec l'instruction de ce dossier? Parce que vous-même, vous l'avez dit, vous avez reçu des appels venant de par-ci, par-là, et tel que nous le connaissons, souvent, ces sociétés opèrent au sud de Kivu avec une bénédiction des autorités, d'abord les unes provinciales, civiles ou militaires, les autorités de Kinshasa et même la couverture de certaines multinationales étrangères.
Ben, écoutez, nous, notre souci, je pense c'est le vôtre également, c'est de voir le pays se développer, c'est de voir la province se développer, mais quand nous regardons les conditions dans lesquelles nos confrères, nos familles vivent aujourd'hui, on ne peut que déplorer ce qui se passe. Alors, pourquoi les gouvernements n'arrivent pas à développer? Parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça le nerf de la guerre. Vous voyez, le gouvernement provincial n'a pas d'argent. Et le peu d'argent qui arrive de Kinshasa comme rétrocession ne peut que financer le fonctionnement des institutions. Alors, comment allons-nous faire les routes? Comment allons-nous fixer l'eau? Il n'y a pas d'eau potable à Bukavu. Voyez, comment allons-nous fixer les problèmes d'électricité, les écoles, ainsi de suite? Il nous faut chercher de l'argent. Alors, il y a la province du Sud-Kivu est très riche, extrêmement riche. Hein, et on voit l'exploitation, on voit l'argent qui sort de cette province. Si je pars, par exemple, à titre de comparaison, des statistiques, des données de Primera Gold, qui a exporté 5000 kilos d'or en 2023. Ça, on ne parle que des primaires. Et eux, ils ont déclaré. Ils ont des statistiques. Et ils ont payé. Okay. Les autres qui sont... qui se cachent. Personne ne les connaît. Qui sont protégés par-ci, par-là. Donc, vous voyez que seulement l'exploitation de l'or peut financer la transformation de la province du Sud-Kivu. Le développement à tous les niveaux. Vous voyez. Alors, là, on n'ajoute même pas l'agriculture, la pêche et autres ressources. Vous voyez. Et donc, nous, notre souci, et je l'ai dit, je l'ai dit à la conférence de presse, pour qu'on puisse se développer, on a besoin que les étrangers amènent les capitaux ici, qu'ils investissent ici, et que nous puissions ensemble développer la province. C'est aussi bon pour eux. Mais quand les gens ils se cachent comme ça, on n'arrive pas à voir ce qu'ils sont en train de faire, et il y a un individu ou deux ou trois qui bénéficient derrière au détriment de toute la communauté, ça ce n'est pas correct. Alors nous, notre souci c'est de dire, on assainit l'environnement, on garde les bons, et les mauvais, on les met dehors. C'est très simple. Et donc, on va poursuivre cette démarche-là, et on va continuer jusqu'au bout.
Face à l'oppression que vous allez sûrement subir, venant d'ailleurs, quelle posture allez-vous adopter?
Vous savez, peut-être on se connaît pas, ou on ne connaît pas, on ne sait pas de quelle matière on est fait. Nous ne sommes pas de ce genre-là, de céder à la pression. Quelle pression?
Parce qu'auparavant, nous devons le rappeler, les élus nationaux du Sud Kivu se sont investis dans la démarche lors de la législature passée. La question a été soulevée par devant le Parlement. Les élus ont constitué une commission d'enquête qui arrivait même parce qu'il s'agissait essentiellement de l'exploitation des ressources naturelles en territoire de Mwenga. Ils ont fait plusieurs jours à Mwenga, ils sont rentrés à Bukavu, ils ont présenté une série de recommandations qui aboutissaient même à la suspension de certains hauts cadres de l'administration, mais en fin de compte, la suite n'a pas été favorable. Aujourd'hui, le territoire de Mwenga fait toujours face à une exploitation à grande échelle des ressources minérales.
Monsieur Expedi, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Ça, tout le monde doit le comprendre. Nous sommes dans une nouvelle dynamique. Et la dynamique est telle que nous faisons les choses correctement pour notre pays, pour nos populations, pour nos communautés. Et on doit arrêter avec les histoires des commissions. Il y a eu combien de commissions depuis l'indépendance? Beaucoup de commissions. Certains documents se sont même abîmés. On ne sait même pas les consulter parce qu'il y a eu des commissions, des commissions, des commissions. Ça nous a produit quoi? Soyons pratiques et arrêtons avec les histoires trop académiques, trop intellectuelles, trop. Arrêtons. On va sur le terrain. On a pris les Chinois. On les a amenés ici. On les garde. Ils vont payer. Okay? Et cet argent va rentrer dans la caisse de l'État. Il y a eu des gens, bien sûr, dans l'administration ou les administrations passées. Je n'accuse personne. Les faits les témoignent aujourd'hui. On n'a pas des routes. C'est que les gens qui ont été là, ils n'ont rien fait. On ne se cache pas les mots. On n'a pas des routes. On n'a pas construit les routes. Pourquoi on n'a pas construit les routes? Est-ce que c'était question de manque de volonté ou manque de moyens? Ben, ou la combinaison des deux. Mais c'est que moi, j'essaie. Quand je suis arrivé à Bukavu, je n'ai pas trouvé des routes. Dans ma maison, il n'y a pas d'eau. On puise de l'eau dans le bidon. Nous sommes dans une ville ou dans un village. Pour se laver, on doit prendre un gobelet et on se renverse de l'eau sur la tête. On est dans une ville ou dans un village. Dans une province si riche, aussi riche que le Sud-Kivu. Soyons sérieux pour une minute. Vous voyez, et c'est-à-dire, la démarche ici, c'est de développer la province avec les ressources de la province, c'est de développer la province avec les enfants de la province. Ok, les mauvais, on va les dénoncer. Les complices, on va les dénoncer. Et ceux qui pensent qu'ils vont nous faire la pression, il n'y a aucune pression. Nous, on ne considère même pas ça comme pression parce que c'est des paroles qui passent au-dessus de nos têtes et ça passe comme ça.
Merci, monsieur.
Nous, on va continuer avec les efforts, on va continuer avec les démarches et nous savons que nous avons les mains propres. Personne ne peut nous dire, oui, on va l'attendre au tournant parce qu'il a les mains sales, on va le mettre en prison. Ben, qu'il nous sorte les dossiers. Aujourd'hui, C'est lui qui en a, qui l'aille à la radio, à la télé, à la place publique, et qui nous sortait les dossiers.
Jusqu'ici, c'est Rubimbi. À quand une autre démarche vers, par exemple, le territoire de Mwenga?
Certains, par exemple, Twangiza Mining, ok, vient au bureau lundi, déjà, et on va discuter. Il y a certains qui sont quand même civilisés. Ils n'attendent pas qu'on aille vers eux. Ils communiquent, ils viennent vers nous. Vous voyez, on n'est pas allé à Bendera, ils sont venus vers nous. Vous voyez, mais nous, on s'est déjà fixé un certain calendrier. Après Tsubimbi, on va à Ninja. Et on va faire la même opération. Contrôle, pour les soucis de récupérer ce qui nous revient des droits comme recettes de la province et les recettes pour le pouvoir central. Et si on trouve que les gens sont en règle, on ne va pas les déranger. On ne va pas les inquiéter, on va les encourager, on va les accompagner, on va les appuyer, on va les sécuriser. Parce que c'est notre devoir de sécuriser les investisseurs.
Merci beaucoup. Madame Néné Bintou, présidente du bureau de coordination de la société civile, comment évaluez-vous cette démarche entreprise par le gouvernement provincial du Sud Kivu?
Merci beaucoup, Expedi. Peut-être avant de répondre à cette question, malheureusement, le Mwami Kalenga venait de partir, mais je voulais insister sur la recrudescence des cas de conflits coutumiers dans notre province et que nécessairement ce qu'il a dit à l'égard de la main tendue au gouvernement provincial de pouvoir l'aider à décanter la situation. Il y a un conflit récurrent qui a déjà pris beaucoup de temps à Ninja. La commission s'est déjà prononcée, mais on ne comprend pas pourquoi la province continue à bloquer les dossiers, au motif qu'il y aurait une autre commission qui doit régler la question alors qu'il vous a donné les détails par rapport à la commission.
Justement.
Alors, pour répondre à votre question, je dois commencer par féliciter et encourager le ministre des Finances pour ce qu'il a fait, mais au même moment déplorer la mauvaise gouvernance dans notre pays. Est-ce que vraiment c'est le ministre qui devrait se déplacer pour aller à Karembo si on était dans un état de droit ou dans un état gouverné? C'est pas lui. C'est pas son boulot. Il intervient indirectement dans la chaîne parce que comme ministre des Finances, lui, c'est les pognons qui l'intéressent pour la province. Donc il doit mobiliser l'argent au compte de la province, mais il ne doit pas aller faire arrêter les gens si on était gouverné.
On a une
domine, on a la sécurité, on a je ne sais pas quoi, tout. Alors, il vous parle d'une rivière qui a été déviée. La société civile a dénoncé cette situation depuis le 15 janvier 2024. On a été même au parquet. On a discuté avec les procureurs généraux. On a été à la division des droits humains parce que toutes ces exploitations illicites s'accompagnent également des violations des droits humains. Parce que quand on dévie par exemple une rivière comme ça, il y a des poissons, il y a des écosystèmes qui sont détruits parce qu'on a dévié. Les poissons sont asphyxiés parce qu'ils n'ont pas l'oxygène. Il y a aussi les problèmes environnementaux qui sont créés par la pollution. Ils utilisent des cyanures, des produits toxiques.
Ils abattent pour, les arbres aussi.
Oui, pour laver les minéraux.
Sans
implanter d'autres. Mais maintenant, la situation ne date pas d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit. La société civile a commencé à dénoncer depuis l'époque d'Ngwabidje. Ngwabidje avait pris un moment la décision, comme le gouverneur actuel.
Alors, nous nous excusons pour cette coupure d'électricité. Désormais, sous groupe électrogène, nous poursuivons cette émission Paix et Développement. Toutes nos excuses, nous espérons que vous resterez à l'écoute de Radio Mandela. Vous écoutez donc l'émission Paix et Développement ce dimanche 22 décembre 2024. Madame Néné, vous étiez vivant.
Oui, oui, je pense que ce ne sont pas les Chinois qui ont coupé le courant. Bon, en fait, donc je disais que on remercie le ministre pour ce qu'il a fait.
Mais vous disiez que l'initiative a été entreprise depuis le gouvernement
oui,
passé.
Oui, depuis le gouvernement passé, on a dénoncé. Le gouverneur Ngwabidje à l'époque avait pris une décision de suspendre l'exploitation des sociétés. Les minières par les sociétés parce qu'il y avait beaucoup de cas d'irrégularité. Mais au même moment, c'est Kinshasa qui est intervenu pour lui dire que non seulement il n'avait pas la qualité de suspendre les sociétés, mais pour lui demander de rapporter sa décision. Et la commission à laquelle vous avez fait allusion a produit un rapport qui est resté dans les oubliettes, on n'a pas exploité le rapport. Mais aussi parce qu'il y avait des autorités morales qui étaient citées dans les rapports et on a dû cacher ça.
D'où ma question. Alors, madame, est-ce que vous croyez en cette démarche?
Moi, je crois à la démarche parce qu'on doit quand même aller jusqu'au bout. Donc il ne faut pas que, parce que ça n'a pas marché à un moment donné, qu'on puisse rester dans le statu quo. On doit aller de l'avant. Le ministre vous a dit que tout ce qu'il a détaillé là sur terrain, c'est quand même inacceptable. Comment on peut refuser à un ministre provincial d'accéder dans un site? Et les militaires là qui l'ont empêché d'accéder, et les policiers qui l'ont empêché d'accéder, mais ils sont toujours là, ils continuent à travailler, personne n'a été arrêté. Ça c'est une rébellion, on ne peut pas quand même faire obstruction à la transparence. Et il y a là les codes miniers, les nouveaux codes miniers, et vraiment à donner des sanctions très sévère par rapport à cette infraction-là d'entrave à la transparence dans les secteurs miniers. Je vais lire la disposition. C'est l'article 311-4 qui dit ceci. Est passible d'une amende dont le montant s'élève à l'équivalent en francs congolais de 100 000 à 1 million de dollars. Quiconque par tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre effet entrave à la transparence et à la traçabilité dans l'industrie minière. Vous voyez, les sanctions sont exorbitantes. Mais il y a un million déjà recouvré. Mais donc le problème c'est quoi? C'est le manque de patriotisme en fait. Nous n'aimons pas notre pays. Parce que si on aimait notre pays, et si on pensait même aux générations futures, il y a quand même des actes qu'on ne pouvait pas commettre. Les gens ont dévié la rivière au vu et aussi de tout le monde. Ils ont commencé à exploiter. Encore que les sites là, il y a un périmètre de recherche 14879 qui est accordé à une autre société à part celle qui est là. Et qui accorde? C'est pas la province, c'est au niveau national. Les PR, les PE, tout ce qu'il y a là comme document pour les sociétés, c'est à partir de Kinshasa. Et moi, je me plains, je donne beaucoup de courage au ministre. Il dit qu'il avait déjà reçu des appels et ça va continuer. Parce que tenez, si on était sérieux, après avoir mis la main sur ces Chinois, je les ai vus, le ministre m'avait appelé au point de presse, j'ai participé, j'ai vu les Chinois là-bas et les Burundais qui étaient là. Mais comment ils sont arrivés? De Karembo, de la Chine à Karembo, il y a combien de kilomètres? Est-ce qu'il y a un grand aéroport là qui devait avoir un Boeing qui quitte la Chine pour arriver là-bas? Donc la DGM, on doit poser des questions à la DGM. On doit poser la question à la DGM. Les Burundais ont dit qu'on n'a pas retrouvé avec les documents. Comment il est arrivé ici? Donc c'est des questions qu'on continue à se poser. Et maintenant on dit voilà, on les a eu. Et pour décourager les ministres, je sais que c'est pour les décourager. On dit qu'on les amène à l'hôtel. Mais est-ce que ces gens-là méritent d'être logés à l'hôtel? Hein? Encore au frais de la province.
Et ils mangent.
Hein? Et ils mangent, ils boivent, ils prennent du lait ou je sais pas moi, du miel et tout, toutes les dispositions. Mais ça allait être directement conduit à la prison.
Oui.
C'est là leur lieu, c'est pas à l'hôtel.
Merci madame.
Donc voilà, nous sommes en train de nous inquiéter par rapport à ça. Malgré la bonne foi du gouverneur, le gouverneur avait pris une décision courageuse.
Oui.
Nous avions salué ça comme société civile et nous avons dit. Le problème, c'est toujours Kinshasa.
Voilà.
Il vous a parlé de Bendera Mining. Il n'y a pas que Bendera Mining, il y a aussi TSM, qui exploite de l'or à grande échelle dans le territoire de Fizi. Mais cet or-là est déclaré dans la province de Tanganyika. Quand on les a amenés en commission, parce que le gouverneur avait mis en place une commission, des millions auraient été payés, mais qui ne sont pas tracés. Qui ne sont pas tracés avant l'arrivée du ministre des Finances. C'est parmi, entre autres, paraît-il, les raisons pour lesquelles on a révoqué la ministre des Finances. Donc il se passe des choses dans cette province au point qu'on se demande est-ce que vraiment on songe aux générations futures, parce que dans toutes ces exploitations qui se font, il y a 10% qui doit être décaissé pour les générations futures. On a créé les fomines pour ça.
Justement.
Mais aussi au niveau du fomine, aucune trace. Parce que moi, je siège au conseil exécutif et au comité exécutif de l'ITE. On a eu à mener des enquêtes auprès de ces structures-là étatiques. Aucune déclaration. C'était vraiment rouge zéro. Pourtant, ils perçoivent pour chaque... dans l'exploitation minière industrielle, les 10%.
Merci beaucoup,
donc,
madame.
C'est tellement flagrant. Et moi, je pense que la justice doit sévir. Jusque-là, tout ce qui a été fait, le parquet est à côté, l'auditorat militaire est à côté. Moi, je pense qu'on doit actionner la justice pour que ces gens-là, à partir de demain, quittent l'hôtel, qu'ils aillent à la prison centrale ici. On attend un procès et que des amendes soient faites. Parce que maintenant, l'ambassade va dire non, on les ramène... En Chine, on les extrade, et puis après, ils vont revenir sous, parce qu'ils se ressemblent, les Chinois, mais chez vous.
Merci beaucoup.
Ils vont aller en Chine, après, dès qu'ils vont rentrer les mêmes, vous allez penser que ce sont des nouveaux qui arrivent, ils maîtrisent les terrains, ils vont changer de nom, de société, et l'imbroglio va continuer.
Merci beaucoup. Blaise Masseka, Madame Néné est revenue sur cet aspect. Le gouvernement provincial peut être de bonne foi, mais les blocages... peut subvenir de Kinshasa. Vous êtes politique également, Blaise, et vous connaissez la pratique des politiques. Face à cette situation-là, la pression ou les interférences de Kinshasa, comment se comporter? Quelle attitude l'autorité provinciale doit adopter? Les acteurs sociaux du Sud qui vous doivent adopter? Peut-être les élus pour permettre à ce que l'exploitation des ressources minérales profite d'abord à la province et après à toute la République.
Merci beaucoup, Expedi. Je prends la parole comme ancien coordonnateur adjoint du bureau d'études au cabinet du gouverneur et entre autres matières qui étaient dans mes attributions. Il y avait la question minière.
L'environnement.
Et je pense que je suis parmi les plus outillés à comprendre à quel degré le secteur minier dans notre province est pollué, il est insalubre, infesté de toutes les antivaleurs.
Vraiment.
Nous avons produit des documentations très riches quant à ça, mais comme vous venez de le dire, ces interférences-là politiques. Cette question-là relève d'une complicité inouïe et qui se situe à un degré le plus élevé.
Oui.
Je dois d'abord féliciter le courage d'abord de son Excellence Monsieur le Gouverneur Jean-Jacques Broussi pour la décision courageuse, parce qu'elle était vraiment courageuse. Le gouverneur est audacieux, parce que pour suspendre l'exploitation minière à son temps, je sais ce que ça vaut pour un gouverneur. Mais il a pris quand même cette audace-là. Et nous avons besoin de personnalités politiques audacieuses. De gens qui peuvent prendre des mesures courageuses. Mais des cahiers de charges ont été signés. Quelle est la suite aujourd'hui? On en parle. Quel est le contenu même de ces cahiers de charges? Parce que ça ne devrait pas rester un secret entre gouvernants et exploitants. La société civile, les acteurs doivent savoir quels sont les engagements pris par X ou Y exploitants.
En faveur de communautés locales.
Excellence, monsieur le gouverneur, et avec tous ces services, nous, on va faire en sorte que, comme société civile et politique, qu'on fournisse ces cahiers de charges-là.
C'est ça.
Parce qu'en cette matière aussi, méfiez-vous, la clameur publique compte beaucoup.
Oui.
Il y a des choses que vous ne pouvez pas dénoncer, vous comme gouvernant, mais que la société civile peut vous aider à dénoncer.
Oui.
Et ici aussi, je dois féliciter le ministre des Finances. En tout cas, je pris part à sa conférence de presse.
Comme observateur, bien sûr.
Oui, comme faiseur d'opinion. C'est à ce titre-là que j'avais été convié à cet exercice.
Oui.
Et ce qui me donne encore de l'espoir, c'est que nous avons encore des dirigeants qui peuvent braver la peur. aller à Burembo, aller à Walungu dans les fins fonds avec tout ce qu'il y a comme route insécurité. On doit féliciter le ministre d'avoir pris quand même ce courage-là. Parce que je vais arriver même à différents niveaux de l'administration. Je vais poser par exemple une question. On parle du pouvoir coutumier. Ce sont les ETD, non ? Chefferie et secteur.
Justement.
Ce site-là se situe dans le territoire de Walungu, non ? Il y a un administrateur de territoire de Walungu, non ?
Oui.
Dans la chefferie de Mouèche. Il y a un chef de... Et je ne pense pas qu'en chefferie de Mouèche, il y a un bicéphalisme. Non, il n'y en a pas.
C'est stable dans la chefferie de Mouèche.
Oui. Et c'est là où le moine est parti. Mais nous appelons aussi à nos bami au sens du patriotisme. Vous savez, le moine, c'est le premier gardien des terres ancestrales. L'histoire renseigne qu'il y a eu des chefs, des empereurs, des rois qui sont morts pour défendre leurs terres. Les rois Moussir, les Kabarés et les autres, ils sont morts les 0-0 pour défendre. Donc, si par exemple, ces gens pouvaient trouver une résistance au niveau local, au niveau du chef de village, du groupement ou du moine, on aurait pu peut-être éviter les pires. Mais aussi, un autre point positif, c'est que je retiens qu'il y a quand même quelques Congolais qui peuvent résister encore à la corruption. C'est très positif, ce n'est pas Roger de Badilika qui va me contredire. Entre autres, les piliers de leur projet Badilika, c'est lutter contre la corruption, qui est des Congolais, c'est rare de voir un Congolais qu'on propose de l'argent, de l'or, et qui dit non pour l'intérêt de mon pays, pour l'intérêt de ma province, je refuse. Donc c'est pédagogique, l'émission a un caractère pédagogique. Si nous avons encore quelques rares Congolais, ils sont rares bien sûr, qui peuvent résister à la corruption, qui peuvent résister à la pression, qui peuvent résister aux pesanteurs politiques, c'est à encourager. Alors, un autre point, c'est que je vais parler de finances de la province. Le budget que le gouverneur venait de défendre devant les députés, il est double du budget précédent. Et parmi les secteurs qui peuvent générer beaucoup de recettes pour la province, c'est le secteur minier. C'est son budget à lui, c'est son budget de son gouvernement. Il est responsable devant le Parlement provincial pour ça. Nous voulons qu'à cette démarche-là continue. Parce qu'il n'y a pas que ces gens-là, moi je connais, dans tous nos territoires, sans exception, il y a des Chinois, il y a d'autres, à part des Chinois, qui exploitent de la manière la plus sauvage nos ressources minières. Comme le ministre l'a dit, le Congo, d'ailleurs, avec la Chine, nous entretenons de très bonnes relations diplomatiques. Mais ces relations-là ne doivent pas nous préjudicier, nous, comme Congolais. Nous invitons les investisseurs. Bon, d'ailleurs, le chef de l'État en a parlé, le gouverneur aussi. C'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses internationales très bien garni. S'il y a des investisseurs de bonne foi qui viennent dans notre province, nous, on n'est pas hostile contre l'investissement étranger. Mais que les gens soient en ordre avec le fisc.
Merci.
Et je vous assure, si seulement dans le secteur minier, tout le monde payait le peu que l'État demande selon la législation fiscale en matière, notre province serait capable de mobiliser même 20 millions de dollars le mois.
Merci beaucoup. Joseph, tantôt dans cette émission, nous l'avions rappelé, nous sommes dans un contexte où nous assistons à la ruée vers l'Afrique, un peu comme à l'époque de la conférence de Berlin où les Occidentaux avaient une vue particulière sur l'Afrique. Aujourd'hui, c'est un combat entre les États-Unis et la Chine pour les ressources naturelles du continent africain. Face à cette situation, quelle posture devons-nous adopter, nous comme Congolais, nous comme Sud-Kivusiens?
Bon, alors la question est large. Je considère d'abord qu'il y a une réponse à deux étapes, à deux niveaux. Le premier niveau, le co-débatteur vient de l'évoquer déjà, la clameur populaire. La clameur populaire, et il passe par une politisation correcte au niveau des enjeux tels que vous venez de les évoquer. Et les enjeux ici dont notre population doit être conscient, ils sont à deux niveaux. D'abord que les ressources minières d'Inaïchaka. Zinaïchaka et les Chinois, par exemple, chez eux, ils ont découvert qu'ils ont aussi des réserves de l'or, une très grande quantité d'or qu'ils gardent et qu'ils n'exploitent pas. Les Américains, ils ont aussi des ressources minières. Ça fait partie des pays les plus riches sur le plan minier, les Américains. Mais tous viennent, ils pillent chez nous, ils font des réserves chez eux. Un jour, on va se réveiller. On va se retrouver avec rien pour nos enfants. Et ça, c'est le premier niveau de conscience politique. Le deuxième niveau de conscience politique, le ministre l'a évoqué. Il consiste à savoir qu'il n'y a pas d'argent. Le gouvernement n'a pas d'argent. Et il ne faut pas que l'on se réveille un jour quand on n'aura plus rien et que les autres auront à exploiter leurs réserves. D'abord, au moment où on a voilà, même des crédits, et on va errer comme des pays qui...
En fait, être crédible,
voilà, des vrais pauvres sont dans tous les sens maintenant. Parce que là, on a un potentiel. On ne l'exploite pas à notre propre intérêt. On se laisse exploiter par les autres, alors dans des ressources qui ne valent rien. Ça, c'est le premier niveau de conscience, c'est de savoir que tout est fragile et que... Ça repose sur les sérieux qui a été évoqué ici. Le deuxième niveau de conscience, c'est maintenant au niveau de la population, c'est de savoir qu'il n'y a personne qui libérera le Congo. Ni les politiciens corrompus, ni les Chinois qui viennent ici, d'ailleurs ils se foutent de notre sort, ni les gens, ces Occidentaux là-bas qui sont en train de se battre pour leur propre sort. D'ailleurs ils s'unissent déjà. Les Blancs s'unissent autour de l'OTAN, les, je ne sais pas là, les gens de l'Ouest, de l'Est, ils s'unissent autour de quoi? Et tous, tant que l'on est fragile, ça veut dire que tant que l'on est divisable, j'utilise le mot divisable, je ne sais même pas s'il est consacré en français, mais voilà le mot divisable. Regardez ce que les gens de l'Est ici nous font. Ils s'unissent entre eux. Mais ils s'unissent pour venir quoi? Pour aller vers les bichouchous, qui les uns se trouvent... Ah, ils s'allient d'ailleurs auprès d'eux, parce qu'on va en parler dans la deuxième partie. Je dis que quand on n'a pas une conscience politique suffisamment élevée, alors vraiment on est vrai kichouchou, fragile, et on va mourir comme un kichouchou. Voilà. Et ça c'est très dangereux. Je suis banal dans mes mots pour que... Il n'y a pas d'interprétation autre que ce que ça doit signifier. Ça signifie tout simplement que si on continue comme ça, divisable, voilà comment on se retrouve. Vous allez à Mwenga, vous allez vous retrouver que celui qui doit garder, comme on veut, et l'autorité coutumière, et l'autorité politique, et l'autorité militaire, et l'autorité, ils n'ont pas une cause commune,
morale.
Et l'autorité, ils n'ont pas une cause commune judiciaire, ils n'ont pas une cause commune, ils ne sont pas unis autour d'une cause commune qui est l'avenir de leur pays dans un monde de loups. Ah non, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Le dernier mot que je donne par rapport à celui-là, c'est celui-ci. Il ne faut pas que le Congolais reste bête jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la tombe, parce que dans la tombe, on ne se souvient de rien. Quelqu'un, il vient, il vous dit, moi, je suis candidat. Il vous donne 10 000 francs. Mais les 10 000 francs, il a exploité avec des Chinois en vous volant vos ressources. Il est multimillionnaire ou multimilliardaire. Je parle de ces autorités immorales qui font la pression, n'est-ce pas? Qui font la pression à notre cher ministre. Ils sont multimillionnaires. Où est-ce qu'ils tirent l'argent? Où est-ce qu'ils tirent l'argent? Des mines et tout le reste. Ils viennent, ils trouvent un petit chétif, un clochard que je suis, parfois chômeur, parfois je ne sais pas, voilà, et tout ça, ça entre dans les circuits, et puis on nous dit, voilà, je te donne 2000 francs, 20 000 francs, tu vas, tu me votes encore, tu me révotes encore, et je reviens, je viens avec mes Chinois, avec qui j'exploite mes minéraux, et puis encore je te reviens. Il faut que l'on sache que il faut qu'on vive la rupture. La rupture avec une classe politique qui nous a déjà démontré qu'elle vit de notre sang. Est-ce qu'on se rend compte de quelqu'un qui vit de votre sang et vous dansez pour lui le lendemain? Il Merci, faut qu'on Joseph. Cesse de danser pour nos monstres.
Merci beaucoup. Christian, vous êtes chercheur, enseignant. Comment vous évaluez la légalité de la démarche entreprise par l'autorité provinciale?
Merci beaucoup pour la parole, SPD. Je voulais ajouter d'autres casquettes. Je suis chercheur au centre d'expertise en matière de gestion minière à l'Université catholique de Bukavu. Alors, donc, j'ai une certaine maîtrise de la question. D'entrée de jeu, je veux préciser qu'ici nous sommes en train de faire le procès de la faiblesse ou de l'absence de l'autorité de l'État. Et cela, mort dans l'âme, m'amène à critiquer la démarche du gouvernement sous le prisme de la légalité et de la séparation des pouvoirs. Mais il faudra, avant d'y aller, préciser que si le gouvernement agit sous le paradigme du pragmatisme, c'est aussi dit du fait de cette absence, c'est aussi une expression de cette absence de l'autorité de l'État. Qu'est-ce que signifie pragmatisme juridique? De manière très simple, la règle qui compte, c'est la règle qui est effective. Donc, on est face à l'absence, on est face à l'incapacité de cette autorité, on se crée des règles.
On s'adapte au contexte.
On s'adapte au contexte, on se crée des règles. Donc, c'est aussi l'autre premier défi. Mais aussi, il faut rappeler ici que nous sommes en train de vivre l'impérialisme rouge.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire cet impérialisme chinois, qui est par ailleurs sauvage. Mais aussi, nous sommes toujours dans cette suite de logique du modèle de l'État hérité de la colonisation, qui est un État d'exploitation. C'est-à-dire, on construit un État pour faciliter le pillage des ressources de territoires qui sont devenus le Congo. Et nous, nous avons hérité cela, nous l'avons même tropicalisé, et aujourd'hui, c'est les Chinois qui viennent perpétuer ce modèle d'État que Léopold D nous a légué, malheureusement, de triste mémoire. Alors, revenons alors au débat, c'est quoi je disais, mort dans l'âme, en fait. Nous sommes en face de cette inefficacité de l'État. Est-ce qu'on va condamner le gouvernement d'être pragmatique, c'est-à-dire d'être réaliste? Mais cela ne nous empêche pas de rappeler, parce que je suis enseignant, je ne vais pas aussi désorienter mes étudiants. Je sais pour les chercheurs, le pragmatisme juridique, c'est aussi un cadre théorique qui vaut la peine, mais pour l'État de droit, ce pragmatisme n'est pas encouragé. Parce que souvent, ce pragmatisme amène à sacrifier la légalité et la séparation des pouvoirs. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans la démarche entreprise par le gouvernement provincial. Premièrement, quand on lit les codes, le règlement minier, je pense à son article 16, on définit clairement les attributions du gouverneur et de la province. Vous ne verrez nulle part, on précise que le gouvernement provincial est compétent dans la recherche ou la constatation des infractions. Parce que nous sommes en face des infractions. Ces Chinois ont violé toutes les infractions prévues dans le code minier. Donc, nous sommes en matière infractionnelle. Donc, c'est une matière judiciaire.
C'est-à-dire que le parquet doit être mis à contribution.
Non, c'est ça, je dis l'absence de. Quand je parle de l'absence de l'autorité de l'État, c'est ça aussi. C'est le parquet qui
doit se saisir.
Oui, c'est sa matière.
L'auditorat, parce qu'il y a des militaires.
Donc, ce n'est pas au ministre. Donc, on n'attend pas que le ministre envoie un coup de fil. Non, ils doivent être sérieux. Ils sont payés pour ça, par ailleurs. Alors, bon, nous sommes déjà en matière infractionnelle. Et qu'est-ce que nous devons montrer aussi? Une lacune aussi au niveau de la station minière. Il était prévu qu'on crée une inspection générale de mines qui aurait la compétence des recherches, qui serait l'OPJ. Mais c'est seulement en 2023 qu'on a pris un décret. Et aussi, c'est une fraude même à la loi, parce que la ministre s'entend son départ, il monte ce décret pour se nommer aussi inspecteur.
Oui.
Très maligne comme elle est, au lieu de commencer par son nom, poste, nom, prénom, elle commence par prénom. Antoinette, donc pour tromper la vigilance.
Mais
on n'a pas encore vu l'installation en province. Voilà les éléments qui pourraient amener à justifier ce pragmatisme de la province aussi. On n'a pas cette inspection qui devrait rechercher des infractions. On a aussi le parquet à côté, c'est vrai, il y a peu de magistrats, il faut aussi le reconnaître, aux abonnés absents.
Il y en a plusieurs au parquet. C'est au siège qu'on a personne.
On a
en tout cas, le parquet est plein.
Donc, vous voyez, on a déjà cette première question de séparation de pouvoir, cette question de légalité.
Ouais.
Alors, je voudrais aussi insister, parce que la question de légalité, c'est bien, mais il y a aussi des règles incomplètes la CNIL, parce que quand on parle des règles, on ne se limite pas aux règles primaires, c'est-à-dire des prescriptions, des obligations. Il y a des règles secondaires, c'est des procédures, c'est des institutions qui doivent être mises en place pour faciliter l'applicabilité de loi. Tel n'est pas le cas, je viens de citer l'inspection, mais il y a d'autres procédures qui ne sont pas prises jusqu'à ces jours. Et là, c'est aussi un autre combat que nous devons amener. Nous devons comprendre que le code minier adopté, c'est au-delà du Parlement, c'est beaucoup de lobbies. Enfin, comme peut-être le gouvernement n'a pas été suffisamment associé, il oublie qu'il y a des mesures d'application
qui traînent.
Qui traînent. Donc, ouais, c'est tout ça le problème. Alors, parlons aussi de la légalité, c'est la présentation. En tout cas, j'ai aussi un master en droits humains, il y a la présomption d'innocence. Ouais, présenter devant l'autorité de présumer. Filmer, c'est aussi une condamnation de presse. Donc on les a jugés, mais après on se rend toujours compte qu'il y a des innocents. Mais est-ce que comment on va réparer cela? Est-ce qu'on va encore ramener la presse pour présenter? Sinon, on s'excuse, il y avait des gens. J'interpelle en tout cas qu'on invite.
Oui.
Non, il n'y avait pas la flagrance parce que les juges n'ont pas été saisis en flagrance. D'ailleurs, c'est ma proposition. Malheureusement, on est en train de passer le jour. On devrait organiser un procès en flagrance. En tout cas, Son Excellence, Monsieur le Ministre, moi je suis en tout cas tellement contre que ces gens vivent, ces gens soient en hôtel alors que nos concitoyens, pour des faits bénins, vol des chèvres, oui, sont en prison. Alors qu'il y a des gens qui ont violé toutes les dispositions pénales du code minier, sont en hôtel. Donc prochainement qu'on les ramène, on invite aussi les parquets de se saisir d'office. Et s'il le faut, pour envoyer un message très fort, organiser un procès en flagrance, oui. Je crois qu'il y a toujours cette possibilité-là.
Voilà, merci beaucoup Roger Bouendoa. Vous êtes du projet Badilika, vous avez été convié essentiellement pour la seconde partie de cette émission, mais également comme défenseur de droits humains, vous avez sûrement un avis à émettre quant à cette question. Quelle est votre vue par rapport au sujet sous examen, l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, les Chinois qui ont été interpellés et le gouvernement qui, droit dans ce bot, promet de poursuivre cette démarche jusqu'à sa fin?
Je n'aurai pas de gants pour accuser ceux qui sont en train de mettre ce pays à feu et à sac. Le ministre est malheureux, je le regarde, je me dis, est-ce qu'ils vont réussir? Parce que cette bonne foi s'est éprouvée. Et je me rappelle que dans cette ville, une première fois, on avait dit que le gouverneur Pourroussi avait demandé qu'on suspende les activités minières de tous ces voyous qui étaient en train d'exploiter chez nous, pillés, comme venait de dire Blaise, et laisser nos terres nues pour que, en effet, les générations qui vont venir périssent. En fait, tout est mis en marche pour que le Congolais n'existe pas. On va exploiter ces pays comme on est en train de le faire, le dévaster, je dis bien, le dévaster totalement, tous ces charognards autour de nous qui sont utilisés comme des chiens de garde, mais qui sont accompagnés par des Congolais véreux. Je voulais corriger quelque chose, Blaise, hein, il existe encore beaucoup de Congolais qui n'acceptent pas la corruption. Ils ne sont pas rares. Je pense que si le ministre a dit qu'ils sont rares, ils sont de ceux-là d'ailleurs. Ils ne passent pas tous devant le micro. Ils ne passent pas tous devant les micros pour dire qu'ils ont refusé la corruption. Expédie, j'ai la malchance de venir de Mwenga. J'ai fait 2 jours pour arriver à Mwenga. C'est 128 kilomètres. Alors que les collègues qui quittaient Bukavu pour aller à Montréal étaient déjà arrivés. Donc, sur ma route, j'ai reçu des messages que nous venons d'atterrir à Montréal. Et moi, j'étais encore sur la route, malheureux. Hein,
dans votre province, en fait.
Dans ma propre province. C'est 128 kilomètres, c'est-à-dire, vous roulez à 70 km, à quelques heures, vous êtes à Mwenga. Deux heures maximum, vous êtes à Mwenga. Donc, en fait, qui a envoyé les Chinois là-bas? J'ai vu que la route, déjà, à partir de Chiriri, la route vers Mwenga est foutue. Déjà depuis Chiriri. Pourquoi? Parce que il y a des camions qu'on dit 40 pieds qui empruntent cette route-là en terre battue. Et depuis que Bandro, version Canada, est parti, ben, ceux qui viennent exploiter, ils viennent exploiter sans rien respecter. Et le collègue qui venait de parler ici a parlé de l'impérialisme chinois. Les Chinois sont des commerçants, donc des commerçants n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'amis. Ils viennent quand ils viennent à vendre, ils viennent voler.
Ils n'ont pas besoin de réhabiter les routes.
Non, ils ne le feront pas. Mais écoutez, nous sommes malheureux parce que le peuple congolais n'a pas l'habitude de voyager. Déjà, à quelques kilomètres avant que vous n'arriviez à Kirungu-Touré, sur cette route-là, il y a au moins 20 tanks. Du quoi? 20 camions-citernes. Ces gens ont même refusé de louer une station d'essence pour mettre leur carburant et épargner la population d'incendie. C'est-à-dire là, il suffit d'un rien. Je ne sais pas si le ministre a été sensible à ça. Il suffit d'un rien pour que de villages entiers volent en fumée. Et c'est dangereux. Donc, nous devons appeler, là je pense que nous devons être responsables, nous le petit peuple, nous devons être responsables pour que nous survivions. Il faut que nous nous posions des questions sur notre lendemain. Et nous posant des questions sur notre lendemain, nous avons le droit de refuser certains deals. Le ministre a été très élégant, il a refusé de citer leurs propres tortionnaires. Mais c'est ceux qui le nomment. C'est ceux qui nomment les ministres qui sont leurs propres tortionnaires. C'est-à-dire la pression ne viendra pas d'ailleurs. La pression viendra de ces autorités morales, sans moralité. Ils n'ont aucune moralité, ces gens-là, parce que ils sont les démons de cette province. On peut les citer. Je ne veux pas me mettre à les citer pour éviter la clameur publique. Je ne peux pas.
Ouais.
Je suis un homme très élégant, mais je pense que...
Ils sont connus.
Maintenant, ils sont seulement à Rubimbi. Et Rubimbi, c'est un site qui n'est pas très orifère. Il y a des sites plus orifères que Rubimbi. Et là, déjà, Rubimbi, qui est sur une vallée, je parle de la zone parce que je la connais, et qui est sur une vallée, il y a de l'eau. Mwenga est le territoire le plus, comment on dit, qui a le plus de rivières en RDC. Et les rivières sont sur des montagnes, sur des sommets de montagnes. Et ces Chinois, excusez-moi à leurs approches, ils dévient des rivières, parce que les rivières, il y a suffisamment de l'orbe.
Ce sont des sédiments orifères.
Et alors, là, imaginez-vous, si on déviait la Ruzizi et qu'elle s'est trouvée à Karale, qu'est-ce que ça peut faire à la population qui se trouve sur le flanc? Qu'est-ce que ça peut faire à des populations qui sont sur le bord, les bas-fonds? C'est-à-dire, c'est ça qui se fait, et je ne sais pas le professeur Jean-Jacques Bourroussi a des équipes aussi costauds pour contrer ces autorités qui se comportent comme de véritables escrocs au sommet de l'État, pour, excusez-moi, je vous êtes grand.
Vous êtes quand même élégant.
Oui, mais qui se comportent pas comme des Congolais. C'est une mafia, en fait.
Peut-être.
Bon, excusez-moi. Ça vient d'un, politique.
Parce que vous-même, vous l'avez dit, il y a quand même des hommes sérieux dans ce pays.
De ceux-là qui nous dirigent, je doute qu'il y en ait un seul qui soit sérieux.
Merci beaucoup.
Excusez-moi. Expédie, vous m'avez fait participer à ce débat.
Justement.
Parce qu'évidemment, le Sud Kivu devrait compter sur ce que nous avons, afin que 20 ans après, nous agissions comme les gens à Dubaï. Les Arabes savent que le pétrole qu'ils ont est périssable. Ils ont le pétrodollar. Ils ont acheté tout. Allez à Londres. Vous allez trouver que des quartiers entiers appartiennent aux Arabes. Voilà, Etihad, et ainsi de suite. Regarde, même visite Rwanda, se cache derrière les Arabes. Les avions rwandais sont des avions de Qatar Airways. Donc il faut se promener pour savoir que ces gens, ils savent qu'après que cette manne soit finie, nous allons vivre du tourisme. Nous devons vivre du tourisme, entrer dans les appartements à Paris, aller dans les appartements à Dubaï, ben c'est les jours et la nuit. Donc l'ancienne civilisation, elle est en train de montrer ses limites. Nous devions au Congo réfléchir que, après que tout ceci soit parti, qu'est-ce que nous avons?
Merci.
Avons-nous de bonnes écoles? Parce que, Expédie, toi tu as étudié au collège. Mais combien de collèges à Fadjir on a construit après l'indépendance? On veut construire ces petites maisons qu'on nous montre ici, avec une petite tempête, elles vont aux éclats. Cool. C'est ça qu'on va nous montrer. Est-ce que nos arrière-petits-enfants seront fiers de nous quand le Congo n'aura plus de minerais, quand le Congo n'aura plus de bois, quand le Congo n'aura plus de coltan? Et c'est comme ça. Plusieurs fois, le Congo a répondu au rendez-vous. Nous avons donné le caoutchouc pour la révolution industrielle. Mais le caoutchouc est parti, l'EVA est parti. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'EVA parce qu'on a le plastique. On n'en a plus besoin. Donc, même si nous disions que nous avions l'EVA, le monde ne va pas trembler. Et nous avons participé. Nous avons envoyé nos enfants aux États-Unis, au Cuba, pour faire des plantations. Tous ces gaillards que nous avons, excusez-moi, mauvais français, ils sont partis. Aujourd'hui, nous avons Tchétif. Quelqu'un l'a dit ici. Non, c'est Jeff qui l'a dit. Aujourd'hui, nous avons Tchétif. C'est-à-dire des grands garçons, grandes filles, que nous avons envoyés avec Tipo, ils sont partis. Nous avions donné l'uranium pour bombarder Hiroshima et Nagasaki. Oui, il y en a encore. Il y a encore un peu d'uranium. Mais qui? L'uranium est entre les mains de qui? C'est ce deal-là, au fait, qui envoie ces bandits au pouvoir. C'est-à-dire, ils savent, ils vont coopérer avec qui? Ils vont coopérer avec des impérialistes. Et les impérialistes ne respectent pas les cahiers des charges.
Merci Roger. Merci Roger pour cette partie. Avant de donner au ministre parole pour clore, Samuel Blaise l'a dit, il faut une clameur publique. Comment vous, comme acteurs sociaux, allez-vous accompagner le gouvernement provincial pour l'aboutissement de cette démarche? Parce que, tel que nous le constatons, ce n'est plus seulement une question du gouvernement provincial, c'est une interrogation qui nous revient, et Roger y est revenu en disant que nous devons nous interroger sur ce que sera l'avenir de la République, l'avenir de la province et notre avenir, nous, comme humains.
Merci beaucoup, cher Expedi. Je dois d'abord dire que ce que Madame Néné a dit est vrai, parce que la société civile, les mouvements citoyens dénoncent. Malheureusement, les autorités ne font comme si rien n'était. Et c'est là, quand il y a des choses par-ci, par-là, nous on dénonce, en espérant que ça arrive aux autorités, dans leurs compétences, de prendre des décisions.
Justement.
Je dois encourager et remercier le ministre pour ce courage, parce que ce n'est pas facile. Nous avons vu quand le gouverneur a suspendu les activités minières, des appels, on lui a convoqué à Goma, il a rencontré le ministre national des Mines, on a donné des instructions, et tout cela, nous on se disait finalement, on est où? Est-ce qu'on est encore en RDC ou on est à l'étranger? Parce que le ministre quittait Bukavu vers Walungu la nuit, nous connaissons aussi l'état de cette route, en tout cas c'est un risque qu'il a pris, et c'est pour l'intérêt général, en tout cas nous lui disons félicitations et courage. La deuxième des choses, on doit se poser la question. Les policiers qui sont sur les sites, les militaires, ANR, ils sont gérés par qui? Pendant que police, ANR, militaires sont sous le pouvoir du gouverneur de province.
Un ministre. Il faut dire que les militaires sont interdits d'accès dans les sites miniers. Seule la police des mines.
Un ministre qui a un ordre de mission signé par le gouverneur de province, mais on lui dit qu'il n'a pas le droit d'accéder dans les sites.
Puis un policier. Et on les laisse en liberté.
Et qui lui dit qu'il est prêt à mourir si on accédait à cet endroit. Donc, allez-y comprendre qu'il y a aussi une complicité de ces autorités militaires, policières, qui se cachent derrière. C'est pourquoi nous devons appeler le gouverneur de province de prendre ses responsabilités. On ne peut pas comprendre que dans une province où nous avons des richesses minières par-ci, par-là, et qu'on n'est pas à mesure de mobiliser 1 500 000 $. La deuxième des choses, les permis d'exploitation. Parce que les amis l'ont dit, c'est chinois, c'est burundais. Est-ce qu'à Walungu, il y a un autre aéroport? Ils passent par où pour arriver?
Parce que les informations rapportées par le ministre vendredi dernier font état de l'arrivée sur le site des hélicoptères, je ne sais en provenance de quel endroit.
Bon, on ne sait pas, mais des enjeux pris des 40 camions, 50 camions qui sont sur le site, mais ils sont passés par où?
C'est ça.
Pendant que pour arriver, comme papa venait de le dire, pour arriver à Walungu, passer le Roger, Badilika, pour arriver, il faut au moins 2 jours. La route est dans un état, en tout cas, délabrement très avancé. Et on se pose la question, où passent ces engins pour arriver dans ces sites? La troisième des choses, toutes ces sociétés minières n'ont pas leur adresse physique dans la province du Sud-Kivu. Il y a ceux-là qui ont leur adresse physique à Kinshasa, à Lubumbashi et à Goma. C'est pourquoi on devrait aussi rappeler les gouverneurs, c'est l'eau. Ce qui s'était dit qu'il y a eu des cahiers de charges, comme quoi ces adresses physiques seront installées dans la ville de Bukavu, et ça peut permettre à nos amis de créer de l'emploi, et oui, on va se retrouver aussi. Donc, nous encourageons le gouvernement provincial à poursuivre.
Je reprends ma question en 30 secondes, répondez-y. Quelle posture, nous, comme citoyens, nous allons ou nous devons adopter face à une telle situation?
Bon, les amis l'ont dit, la clameur publique. C'est parmi aussi les stratégies qu'on doit mettre en place. La deuxième des choses, c'est d'accompagner le gouvernement provincial pour attraquer tous ces chiffres qui sont partout dans les 8 territoires. Parce qu'il faut rappeler que presque dans les 8 territoires, vous avez des minéraux.
Même chez Blaise Maseka.
Oui.
Mais on n'en parle pas.
Il n'y a pas de stratégie. Pas ça, nous devons quand même aussi interpeller nos leaders. Parce que parmi ces Chinois, il y a ceux-là qui sont parrainés par les autorités morales, responsables de certains partis politiques, fils du Sud Kivu.
Oui.
Parce que quand on était à Kinshasa, on a découvert des choses. Et ces autorités morales, ce sont ceux qui font des menaces aux ministres. il faut les libérer. Non, non, ils ont des contrats avec telle autorité. Si vous ne les faites pas, on va vous tuer ou on va vous remanier, tout cela. En tout cas, nous, à notre niveau, nous pensons que le moment est arrivé de vivre de nos richesses. Parce que s'il y a construction de la route, si nous avons de l'eau, de l'électricité, il n'y aura pas de l'opposition, majorité, société civile, mouvement citoyen, tous nous allons bénéficier.
Merci. Donc, Biamungo.
En tout cas, le gouvernement provincial a notre soutien par rapport à ce qu'on venait de faire et nous demandons au ministre de continuer. Fizi, Shabunda Mwenga, Idu aussi, parce que Calais est partout. Et je crois que si on attrapait ces gens, et les 10 millions de dollars ou 5 millions de dollars qui vont payer, ça va permettre au gouverneur des provinces, au gouvernement provincial, de matérialiser sa politique.
Merci beaucoup. Monsieur le ministre, avec vous que nous allons clôturer, vous avez suivi les avis des uns et des autres. Quel engagement prenez-vous solennellement devant les auditeurs de Radio Mandela qui vous écoute de partout? C'est justement les habitants du Sud Kivu, ce sont les citoyens de la République, les citoyens de cette province. Quel engagement prenez-vous pour assainir le secteur des finances, pour permettre donc à la province du Sud Kivu de capter plus de ressources afin de répondre aux besoins qui sont prioritaires, le besoin de développement, les besoins d'ordre socio-économique, les besoins de développement de la province, de la ville et des entités qui se situent très loin de Bukavu.
Merci. Avant de répondre à cette question, je vais réagir rapidement à ce qui a été dit avant moi, hein, commençant par la question sur la légalité des actes qu'on a posés. On ne doit pas ignorer qu'on est dans un espace où la corruption domine, il y a la fraude et le mal vient de l'intérieur. Vous voyez, le mal vient de l'intérieur. Avec tous les respects que je dois au professeur et tous les efforts qu'il est en train de faire pour éduquer notre communauté, vous comprenez que les règles ont changé. Hein, on ne respecte pas les règles. Vous voyez, et quand on est dans un environnement où on ne respecte pas les règles, moi, en tant que Congolais, citoyen congolais, qu'est-ce que je fais? Vous comprenez? Qu'est-ce que je fais? La justice ne fait pas son travail, la population prend la justice à main. C'est ça la réaction naturelle. Vous comprenez? Ici, les règles ont changé. Les Chinois, ils viennent, ils se comportent comme s'ils sont dans un terrain conquis. Exact. Les Indiens font la même chose, les Rwandais les font la même aussi. Chose, les Libanais font la même chose. Et moi, je fais quoi? Vous me poussez dos au mur, j'ai réagi. Et là, c'est l'instinct de survie.
C'est le pragmatisme auquel il a fait allusion.
Je suis venu il y a 3 mois. Il y a les yeux de toute la population du Sud Kivu braqués sur moi pour voir ce qu'on va faire en 2025 en termes des engagements que le gouvernement provincial a pris pour développer la province. C'est du sérieux. Vous comprenez? Je vais trouver l'argent où? Que j'aille à la montagne pour prier? Ou dans une église? Il y a ceux-là qui prient et qui ont la foi plus que moi. Vous voyez, c'est-à-dire, arrêtons avec le formalisme. Parce que les mêmes règles qui sont placées, on ne les respecte pas. Personne ne les respecte. Vous voyez, nous-mêmes, on ne les respecte pas. On envoie les gens ici faire le bouclage. Au lieu de boucler, c'est eux qui harcèlent, qui rançonnent la population. Vous voyez, ce ne sont pas les Rwandais qui viennent rançonner les gens ou les Chinois. C'est nous, les Congolais, en plus les agents de la DPMR. Vous comprenez? Les mêmes gens que nous nous envoyons, c'est les mêmes gens qui violent. Alors, quand un Chinois arrive, vous l'avez bien dit, il trouve beaucoup de faiblesses. Et qu'est-ce qu'il fait?
Il en profite.
Il en profite, oui. Naturellement, il doit en profiter.
Et maintenant, nous devons remettre les compteurs à zéro. Avant de parler de respect des lois de ceci, de ceci, de cela, ok, remettons les compteurs à zéro. Ces lois-là, on les a mis en place, nous. Et ces lois-là, moi je dirais même, certaines lois sont obsolètes. On doit les adapter à la réalité d'aujourd'hui. Et moi je dis, tous ceux qui sont dans l'informel, ramenons-les dans le formel. Si c'était moi, le président de la République, le gouverneur des provinces, je commencerai par faire la cartographie de toutes les richesses de la province. Et les répertorier. Et faire une valorisation par des experts. Comme ça, il y a quelqu'un qui se pointe ici, peu importe son origine, Peu importe d'où tire ses capitaux. Je lui dis, écoutez, il y a les tableaux des opportunités, et bon, voilà, les règles, nous, on travaille comme ça. Vous choisissez, vous êtes minier, vous allez dans les mines. Vous êtes dans l'agriculture ou dans la transformation, vous allez dans les secteurs où vous avez de l'expertise, vous avez les capitaux, et nous, on vous donne les ressources, vous travaillez. Mais les mecs, ils arrivent ici, ils tâtonnent. Ils vont où ils vont, ils changent des camps et tout ça, machin. Et même nous, on ne sait même pas négocier. On ne sait pas négocier ce qu'on veut par rapport à ce qu'on a. Vous comprenez? Et après, on revient pour dire, oui, ils nous ont floué ici, ils nous ont floué là-bas. Comment expliquer une société qui est venue faire les routes en 2013, 57 kilomètres. Après 10 ans, n'a même pas fait la moitié.
Ils sont assez...
Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de sérieux et tout cela tourne dans un environnement détruit par la corruption, la fraude et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, pour moi, maintenant là, mon état d'esprit, ne me parlez pas de formalisme. Parce que ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Mais si nous devons rentrer vraiment dans la légalité, je suis parti à mission avec un ordre de mission signé par l'autorité provinciale, ok? Pour suivre son programme, après suspension, on passe au recouvrement. Vous comprenez? Je suis un agent d'exécution. Vous me donnez une mission, je la fais. Et je la fais dans la meilleure façon possible. Alors, si on suit d'autres choses, la loi sur la libre administration de la province, ok, par rapport au code minier, la préséance, et tout ça, les légalistes vont nous dire ici, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui... Il y a des lois qui se contredisent, il y a des... C'est pourquoi je dis, même, peut-être les états généraux qui viennent se clôturer à Kinshasa vont nous aider à régler certains problèmes dans ce sens-là, mais il y a beaucoup de confusion dans ce sens, même dans l'interprétation de ces lois. Ouais, voilà. On doit travailler sur ça. Alors, pour rentrer maintenant dans notre plan de mobilisation, notre stratégie de mobilisation, de maximisation des recettes pour 2025. On a fait des études, rapidement, hein, des études de desk, hein, et on s'est dit, premièrement, tout est manuel, ici. Deuxièmement, tout est payé cash. Ok, et les deux points seulement, sans aller dans trop de détails,
dans les banques,
permettent ou facilitent la fraude, le coulage des recettes, ou même, on ne sait pas estimer, parce qu'il n'y a pas de statistiques, on ne sait pas estimer le volume de ce qu'on peut collecter
par rapport à une tâche ou une autre.
Et donc, on a pris la décision de digitaliser. Mais on ne va pas digitaliser comme aujourd'hui, on le croit, hein, que le fisc de la province, il y a e-gov et tout ça. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est de la blague. Donc on va refaire toute l'architecture pour digitaliser, encadrer, canaliser, bancariser et arriver au finish,
guichet unique,
à créer un guichet unique, oui, avec la possibilité des assujettis, des contribuables de payer à partir de leur téléphone, ordinateur, ou s'ils veulent, ils peuvent aller à la banque,
oui,
ils peuvent aller faire la queue. Oui. Okay? Et au-delà de cela, on s'est dit, la nomenclature qu'on a trouvée aujourd'hui, elle est énorme, énorme. 162 taxes, c'est trop. Vous voyez, on doit y mettre quand même un petit travail d'intelligence. Il y a 2, 3, 4 actes qu'on peut combiner, où on fait cacher certains actes derrière les autres, pour faciliter la sensibilisation. On doit informer aux contribuables, c'est leur droit, ils doivent savoir, ils payent pourquoi. Pour quelle raison et combien la taxe doit être qualifiée, combien il doit payer. Quand vous débarquez aujourd'hui devant une maman qui vend sur le marché et vous lui dites, bon ben voilà, ou quelqu'un qui a un petit kiosque là-bas, ben, c'est la confusion totale. Vous avez 19 services qui débarquent là-bas. Même les services mortuaires débarquent devant un kiosque qui va le fleur. Je ne sais pas quoi. C'est compliqué. Alors on dit, on va synthétiser. On va harmoniser, on va simplifier et on va numériser. Alors, avant d'y aller, nous, on va faire l'enregistrement, hein, de tous les contribuables. Tous, sans exception. Et après, on va les catégoriser, chacun par rapport à son domaine où les taxes les concernent. Et après, on va y aller comme ça. C'est une démarche et c'est beaucoup de travail. Mais jusqu'à aujourd'hui, On a fini cette étape-là de conception de l'architecture du plan de numérisation. On a trouvé d'autres vides dans le système en termes de structures et d'organisation où le gouvernement provincial n'a pas de service d'audit. Le gouvernement provincial n'a pas de service d'analyse. Aujourd'hui, demandez à qui vous voulez. Je peux vous mettre à défi si vous voulez. Demandez à quelqu'un aujourd'hui, ceux-là qui étaient en fonction comme mon frère Blaise, ou ceux-là qui sont en fonction aujourd'hui, de nous faire pie chart. La charte graphique, qui nous montre tel pourcentage nous vient, par exemple, de telles taxes. Vignette nous rapporte 30% des recettes de la province. La taxe sur l'élevage, là, nous amène 3%.
L'impôt foncier.
Personne ne peut vous le présenter. Parce qu'on ne fait pas d'analyse.
Avec ces réformes, vous pensez que la province peut mobiliser moyennement combien de millions par mois? On peut aller au-delà de 5 millions.
Pourquoi d'abord, on veut inverser la toute la tendance et la réflexion. Le premier secteur porteur, c'est les mines.
Oui.
Et les autres vont suivre. Mmh. Aujourd'hui, c'est l'import-export. Mmh. C'est une honte pour une province si riche que
le sud. On importe tout.
Okay? Donc, nous pensons vraiment que les services comme ou les impôts, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier, les deux combinés, si c'est fait correctement, peut nous rapporter autour des 18 à 24 millions de dollars.
On a plus de 2 millions d'habitants.
Sur les mines, si on travaille correctement, on serait dans les 30-40 millions l'année. Vous voyez? Mais il y a un défi énorme, il y a un défi majeur. Les niveaux, parlons du personnel, parce qu'on ne travaille pas sans les personnes. Okay? Les niveaux de compétences de nos ressources ou de l'administration provinciale est trop faible. Et pour cela, nous avons commencé les démarches avec les partenaires comme la Banque mondiale pour nous accompagner avec des formations de mise à niveau et d'encadrement de notre administration provinciale. Nous avons également entamé les démarches avec l'Assemblée provinciale pour l'EDI qui est quelque part, en termes de création de la fonction publique provinciale, que cette vie-là soit activée. Parce que cela va nous permettre d'abord de stabiliser les ressources humaines. Parce que moi, je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, mon cabinet n'est pas formé. Pourquoi? Parce que je suis arrivé, j'ai trouvé des locaux vides. Et malheureusement, je suis arrivé au moment où le ministère venait de déménager. C'est-à-dire, il n'y avait ni personnel, ni documents.
Vous commencez sur votre
comprenez. Donc, on doit tout reconstruire. Et ça, c'est un défi à ne pas négliger.
Merci, alors, monsieur le ministre.
Mais c'est là pour chuter. Je voudrais que tout le monde comprenne que l'argent va venir de la population. C'est-à-dire la population doit payer les taxes. Okay? Et il y a un incivisme à ce niveau-là que je n'ai jamais vu nulle part au monde. Okay? Mais on va y aller petit à petit. Okay? Que les contribuables payent et que cet argent-là soit mis à profit pour développer la province. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire.
Voilà.
On veut les routes, mais on ne veut pas payer. C'est contradictoire.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre provincial de Finances et Économie, Bernard Mouindo, pour votre participation à cette émission. Ainsi, nous allons clôturer cette première partie. Nous vous remercions, chers invités, pour la participation. Blaise, également, nous vous remercions. Biamungo, Casimir, nous vous remercions. Biaome, Christian, Malumalu, nous vous remercions pour votre participation. Merci donc, chers auditeurs, nous restons avec vous pour parler de la tripartite ratée de Luanda le dimanche dernier. Merci.
On s'apprête à pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit,
ça ne va pas.
Oh, oh, oh.
Ça ne va pas,
hey.
Dans mon pays,
oh.
Ça ne va toujours pas,
ça ne va toujours pas.
vraiment ces traitements, ce que nous avons fait pour subir tout ça. Mousé Laurent, Désiré Kabila, nous a laissé un bon message. Venez jamais trahir les Congos, mais malheureusement, il y a parmi nous deux frères.
9h45 minutes à la suite de cette émission, vous l'avez suivi, la tripartite entre le président congolais Félix Tshisekedi, le Rwandais Paul Kagame et angolais João Lourenço, prévu dimanche 15 décembre à Luanda pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC a été annulée. Raison, l'incapacité de la RDC et du Rwanda à s'accorder sur un engagement en faveur des pourparlers directs entre Kinshasa et la rébellion du M23, une condition exigée par Kigali mais fermement rejetée par Kinshasa. Le problème s'est posé quand le Rwanda a insisté sur l'inclusion dans l'accord d'un dialogue direct entre la RDC et le M23, chose que la RDC a toujours rejetée, fait savoir des sources diplomatiques congolaises. Le président Félix Tshisekedi a réaffirmé la position de la RDC, rejetant toute négociation directe avec le M23. C'était hier devant les membres de sa famille politique constituée des députés, sénateurs, membres du gouvernement et président des regroupements politiques et partis politiques membres de l'Union Sacrée. Le président a été ferme, je cite, « Nous restons intransigeants à ne pas négocier avec le M23 qui n'est autre que le Rwanda déguisé. » Même s'il parvenait à conquérir l'ensemble du territoire national jusqu'à arriver à la porte de ma résidence, qui est la cité de l'Union africaine. De son côté, le président João Lourenço, facilitateur désigné par l'Union africaine pour cette crise, s'est dit profondément préoccupé par la situation. Il exhorte les partis à prioriser l'intérêt de leur peuple ainsi que leurs objectifs communs. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Nous en parlons avec le professeur en relations internationales à l'université, officiel de Bukavu IOB, directeur du Centre de recherche et d'études Ngazi Afrique CERNAF, le professeur Florent Mounenge. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les co-débatteurs, bonjour également aux auditeurs de Radio Mandela.
Merci surtout pour votre patience. Nous gardons dans ce studio la présidente du bureau de coordination de la société civile du Sud, Kivu Maître Néné Bintou. Nous gardons Roger Bouendoa du projet Badilika et Baraka Joseph de l'Institut Patrice Emery Lumumba. D'entrée des jeux, professeur, quelle analyse faites-vous? Quelle lecture avez-vous faites justement le jour que cette tripartite a avorté? C'était le dimanche dernier. Tous les Congolais attendaient de pied ferme cette opportunité de voir le président de la République rencontrer son homologue rwandais pour des échanges qui permettraient peut-être de résoudre définitivement la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais en fin de compte, Paul Kagame, le président du Rwanda, n'a pas effectué le déplacement de Luanda. Le Rwanda insiste sur l'intégration dans les textes d'un engagement en faveur des pourparlers directs entre Kinshasa et la rébellion du M23.
Merci Expedi. La tripartite a été annulée en dernière minute. C'est parce que les experts qui étaient déjà à Luanda ne s'étaient pas accordés. Les ministres des Affaires étrangères des États ne s'étaient pas accordés sur certaines questions, parce que chaque État a placé sa ligne rouge. Et lorsqu'il n'y a pas compromis, la réunion au sommet ne pouvait plus avoir lieu, c'est normal. Que viendrait faire le président Kagame si déjà leurs émissaires n'ont pas réussi à s'attendre? Normalement, dans le déroulement des négociations, les équipes qui négocient restent en contact avec leurs autorités, leurs dirigeants. Ils informent de l'évolution. C'est eux qui doivent leur parler en disant, voilà, avec ça vous pouvez prendre cette posture. Ou carrément vous arrêtez, vous pouvez vous retirer de ces négociations et rentrer au pays. Alors, notre président s'est déplacé. Je ne sais pas si ses envoyés lui avaient dit, voilà, tout est bien, tout est fini. Ou carrément, le président a dit, non, je dois quand même y aller pour discuter d'autres questions au-delà de la tripartite ratée. La diplomatie oblige. Et je peux dire, nous devons savoir que dans des questions relatives aux négociations, lorsqu'on accepte les négociations, on doit aussi accepter des concessions. Il n'y a pas de négociations si et seulement si vous allez uniquement camper
sur, une
sur vos positions initiales. Là, ça ne sert à rien.
Là, vous faites allusion à la position adoptée par le chef de l'État qui prétend qu'il ne pourra jamais et donc au grand jamais dialoguer avec le M23.
J'ai fait allusion aux deux positions, et à la position rwandaise et à la position de la RDC. Pour la position du président congolais, c'est à lui de se justifier. Il sait pourquoi il a pris cette position. Pour moi, l'analyse porte sur la mauvaise foi de la personne avec qui on négocie. Ce n'est pas le premier accord que nous concluons avec les pays voisins. Les pays voisins, nous, on en a beaucoup. Déjà, en 2002, il y avait un accord conclu entre nous et les dirigeants rwandais, mais également avec l'ensemble des groupes armés. Mais ces accords n'ont jamais été respectés. Et dans le respect des accords, on doit jouer sur la bonne foi des acteurs. S'il n'y a pas de bonne foi, inutile d'aller conclure des accords quand vous savez déjà que les partenaires ne sont pas de bonne foi.
Justement, à ce sujet, professeur, nous constatons que d'un côté, le président congolais, ou disons les autorités congolaises, sont trop critiques à l'endroit du Rwanda, tout autant pour le Rwanda. On sent qu'il y a des menaces verbales par devant les médias. Ce sont les ministres des Affaires étrangères qui sont clémanges à chaque intervention devant la presse, tout autant pour les deux chefs de l'État. Quel peut être le rôle du médiateur? Parce que c'est quand même un médiateur désigné par l'Union africaine et qui devrait établir quand même certaines règles qui devaient permettre aux partis de s'entendre, parce que ce n'est pas quand même compréhensible que les gens qui sont censés dialoguer continuent à s'attaquer par voie de médias, par voie de presse, au jour le jour.
Le rôle d'un médiateur, c'est de concilier les parties, les amener à un accord. Et il doit être patient. Parce que les questions internationales, ce ne sont pas des questions locales. Ce sont des questions de très grands intérêts. Le Rwanda, qui est déjà depuis plus de 30 ans sur le miel du Congo, y quitter, ce n'est pas facile. Et pour le Rwanda, c'est de bonne guerre. Alors, le Rwanda est en train de jouer sur la faiblesse ou les faiblesses des Congolais en général pour se taper une place en mettant une messire, les richesses du Congo. Non seulement les richesses du Congo, mais également en infiltrant les systèmes de sécurité du Congo, les systèmes politiques congolais, et pour que le Rwanda soit, sera si dès le lendemain, meilleur. Il y a une chose que les États recherchent à l'extérieur, c'est la satisfaction de l'intérêt national. Et cet intérêt national commence par la survie de l'État. En deuxième position, nous avons la prospérité. Et en troisième lieu, c'est l'identité nationale. Or, si le Rwanda a trouvé des failles du côté congolais, je vous assure que le Rwanda ne peut pas reculer. C'est à nous maintenant de nous remobiliser. Passer par une remobilisation pour freiner les intérêts du Rwanda au Congo et réussir à faire partir du Rwanda, du sol de la République démocratique et du Congo. Si nous ne faisons pas ça, n'attendons pas que les amis, les grandes puissances qui s'arrêtent uniquement au niveau des déclarations, des condamnations. Ce ne sont pas les condamnations dont nous avons besoin aujourd'hui, nous, Congolais.
C'est-à-dire que nous devons renforcer notre puissance militaire sur le terrain.
Nous devons redonner de la confiance aux institutions en général, refonder nos institutions en général, améliorer nos prestations. Bref, nous devons nous mettre au travail. Un travail patriotique, si nous voulons réellement sortir de ce bourbier qui a déjà pris longtemps Parce que aujourd'hui, les Congolais sont divisés. Nous attendons des Congolais qui pensent qu'on en a marre, même si on venait de balkaniser ce pays, tant mieux. Non, nous ne devons pas céder à ce qui serait demain une faiblesse. Une faiblesse. Imaginez-vous une république du Sud Kivu avec Bukavu capitale. Mais que deviendrait cette capitale en face du Rwanda ici, quand le Rwanda va décider de prendre quelques minéraux au Congo? Qui va l'arrêter? Ou bien Goma comme capitale du Nord Kivu? Non! Ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est cette étendue. Quand ils sont aux abords de Bukavu, quand est-ce qu'ils vont atteindre Kinshasa?
Professeur, également, quelle évaluation faites-vous du processus de Luanda? C'est quand même un processus qui prend du temps, 2 ans et demi déjà approximativement. Il y en avait un autre qui a connu un coup de frein, le processus de Nairobi. Il y a par exemple le prix Nobel de la paix qui revient sur une proposition, l'accord d'Addis Abeba. Pour vous, comment vous avez évalué le processus de Luanda qui prévoit que les deux protagonistes se mettent autour d'une table alors que le processus de Nairobi prévoyait la discussion ou des échanges avec les groupes armés confondus, y compris le M23?
Le processus de Luanda visait en premier lieu le rapprochement entre les chefs d'État, Kagame et Tshisekedi. Rien ne peut se résoudre s'ils ne se parlaient pas. Le processus de Nairobi visait à dénouer la question des groupes armés et les mettre dans d'autres processus. Mais la manière dont ça évolue, je me suis posé la question à maître prise sur la personnalité du médiateur. On ne fait pas par hasard un choix d'un médiateur. Le médiateur choisi doit avoir de l'influence sur les partis en conflit. Oui. Alors, quel est le sursaut du président? Oui, c'est vrai, l'Angola n'est pas moindre dans la région. Oui. Alors, le président angolais, avec les impasses constatées chaque fois qu'on veut décoller dans le processus, il devait user d'autres armes. Il y a les armes que l'on peut mettre sur la table des négociations et les armes qu'on appelle les armes hors table. C'est là qu'il doit puiser maintenant. Il s'agit de pression sur les belligérants. S'il n'y a pas pression, rien ne va marcher parce que le Congo ne peut pas céder. Un chantage, après avoir qualifié les M23 des terroristes. Et le président continue à gérer et le voir demain sur la table des négociations avec le M23 qui ne cesse de tuer. Mais la population va se retourner contre lui. Ça, c'est un élément. Est-ce que l'Union africaine, est-ce que cette Union africaine appuie réellement le médiateur. Là, on doit se poser la question. Pas de déclaration. On ne le rappelle pas à Addis Abeba pour dire voici maintenant la nouvelle conduite à suivre. Il est là, il s'embrie, il va s'embourber. S'il n'a pas le soutien de ceux-là qui l'ont poussé à devenir médiateur. Il en est de même pour les grandes puissances. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et bien d'autres puissances. Que font-elles? Elles sont complices, nous devons les souligner ici. Ces grandes puissances visent, elles ont mis en place une stratégie de pourrissement. Parce que pour les États-Unis d'Amérique, les Occidentaux en général, c'est la réponse à la route de la soie initiée par la Chine à travers le monde. Maintenant, comme ils sont chassés à gauche, à droite, elles veulent plutôt ces puissances se retrouver en obtenant un point de chute. Le point de chute, c'est l'Afrique centrale, parce que ça ne marche pas à l'ouest. Mais quand même, gagnons l'Afrique centrale. Mais vous voulez gagner l'Afrique centrale sans les centrafricains, en général, pas la centrafricaine, sans nous, Congolais. La discussion sur le chemin de fer de Lobito se discute en Angola, plutôt en Angola, oui, mais les minéraux qui sont concernés viendront de la République du Congo. Vous voyez ce que ça signifie? Et je vais vous dire que ces puissances qui avaient dernièrement décidé de cesser les faits, et ce cesser les faits avait été respecté, pourquoi elles n'ont pas demandé au Rwanda de se retirer si réellement ces puissances critiquent la présence du Rwanda sur le sol congolais? Merci. Ces puissances sont capables de demander de donner une semaine, un mois au régime de Kigali de se retirer de la RDC.
Mais il reste mieux, ce qui signifie qu'il y a peut-être, on le dit souvent, peut-être une complicité. Roger Bouendoua, je rappelle que après cet échec, le prix Nobel de la paix a réagi en ce terme. L'échec du sommet tripartite dans le cadre du processus de Luanda illustre l'impasse politique et diplomatique dans laquelle se trouve ce processus, malgré la bonne volonté du président de l'Angola, Lourenço. Cette impasse des processus de Luanda et de Nairobi remet à jour l'impératif de redynamiser l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération signé en 2019. Pourquoi cette option?
Merci beaucoup. Je pense que si le prix Nobel a pris cette option, c'est d'abord à cause de l'objectif de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'objectif de l'accord cadre d'Addis Abeba, rappelons-le, réunit 11 pays et 4 organisations internationales et régionales. Ces organisations garantes ont accepté, avec ces 11 pays, l'objectif était clair, c'est... Tous ces pays de la sous-région, dans l'accord, ont eu comme objectif de neutraliser et de mobiliser les groupes armés nationaux et étrangers, de ne pas s'ingérer dans les affaires des États, mais de travailler pour, ne pas être impliqué quand un pays est en guerre, donc de respecter leur souveraineté. Cet objectif de respect des souverainetés était un objectif très important. Et pour qu'on arrive à cet objectif, on avait demandé aux partis des choses à faire. À la RDC, c'était beaucoup plus de travail sur des réformes. Je suis très fier d'entendre les ministres dire « Si on veut avoir des institutions fortes, il faut commencer par des réformes. » Et dans le processus des négociations, quelle est notre plus-value? Quelle est notre force, en effet? Quand nous allons dans un processus des négociations, il y a toujours des choses à faire. La première chose à faire, c'est de connaître les enjeux. Est-ce que quand on envoie des gens, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Addis Abeba, est-ce qu'on a envoyé des gens qui connaissent les enjeux? Est-ce que ces gens connaissent les contextes? Est-ce qu'ils ont identifié nos intérêts? Parce que s'ils connaissent nos intérêts, alors ils vont réfléchir sur des objectifs. Ce n'est qu'en réfléchissant sur des objectifs clairs que ces gens peuvent savoir comment faire les captures d'intérêts. Pour la RDC, quels sont les intérêts? Et quand on fait les captures d'intérêts, en effet, c'est pour savoir libérer des concessions et gagner des terrains. C'est-à-dire, on donne et on reçoit. Et savoir, ok, on peut accepter de céder cette concession parce qu'on va gagner cet intérêt. La troisième chose dans une négociation, c'est dans les choix des négociateurs. Est-ce que les négociateurs que nous envoyons sont des négociateurs agiles dans la négociation? Est-ce qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire?
Vous posez cette question, est-ce que vous savez y répondre?
Bien sûr. Le professeur venait de dire que le président de la République, la RDC, était à Luanda, alors que, avant que les chefs d'État ne se rencontrent, pour des rencontres de haut sommet, on envoie toujours des experts. Et les premiers experts ne sont pas les ministres. Ce sont les gens qui travaillent dans le fond du cabinet. On doit d'abord envoyer ces experts. Après ces experts, on envoie des ministres. Évidemment, ils ont déjà préparé un cahier. Et les ministres viennent juste pour la lecture et se mettre d'accord sur certains points avant qu'on appelle le plus haut sommet des États. Chez nous, je suppose qu'on devrait, si on a bien choisi les négociateurs, ils sont arrivés à ce point de blocage. Ils doivent être arrivés à ce point de blocage. Et quand ils sont arrivés à ce point de blocage, quand les ministres sont venus, ils ont trouvé que les experts de fond étaient déjà cristallisés. Donc, il n'y avait plus nécessité d'appeler les chefs d'État. Et puis, il y a des sommets qui avortent sans beaucoup alerter la presse. Mais pourquoi est-ce que cet échec a alerté la presse? C'est parce que ceux qui sont partis négocier, enfin, il y a des gens qui aiment voyager. peut-être que le nôtre, sont allés voyager. Alors qu'ils n'avaient qu'un point. Donc ils se sont cristallisés sur le fait de dire, nous négocions avec Kagame sur X points. Point. Je venais de parler tout de suite de si le prix Nobel s'intéresse sur l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est parce que l'accord cadre d'Addis Abeba liste un nombre de faits que les États doivent faire. Que dans la non-ingérence, quand évidemment vous attaquez, le président de la République dit que c'est le Rwanda déguisé ou quelque chose comme ça. Quand il dit que c'est le Rwanda déguisé, l'accord cadre d'Addis Abeba ouvre la brèche. Ouvre la brèche quand les États s'ingèrent. Dans la politique de notre État, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ces institutions sont, font partie, l'ONU, l'Union africaine, la SADC, et j'oublie un autre, c'est parce que il faut, la CIRGL, c'est parce que nous appartenons à la CIRGL. En fait, c'est ça la première brèche que les partis de pays de l'Est de l'Afrique ont tendue. C'était un piège qu'on a tendu à la gouvernance congolaise. Sachant que, déjà, l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013, on n'a pas respecté chez nous les réformes. Les réformes de l'armée n'ont pas réussi. Preuve, les rebelles gagnent du terrain. Pourquoi? Parce que les réformes n'ont pas été faites, les armées n'ont pas été préparées pour contrer, ne fût-ce que limiter les dégâts et garder les limites du pays intactes. Il n'y a pas eu de réforme et ceux qui sont venus envahir chez nous nous connaissent. Pour la plupart des cas, ce sont les parrains des politiques qui nous dirigent. L'Ouganda, voilà un pyromane sapeur-pompier qui a des troupes chez nous pour faire des affaires, pour faire la guerre, mais appelé pour une mission de paix. Le Kenya qui a des démêlés avec nous, avec ses banques. Donc, je parlais des enjeux. Est-ce que le Kenya peut parrainer un processus politique chez nous si le Kenya n'a pas de dividendes économiques? Vous chassez les banques kenyanes au Congo et vous acceptez que le Kenya parraine un processus politique. Mais il va le piéger. Vous dites des choses sur le Rwanda alors que vous faites partie de la SADC. Et dans la SADC, il y a des textes que vous avez signés Là, je parle encore d'East African Community. Dans East African Community, il y a des choses que vous avez acceptées, des concessions que vous aviez accepté de faire, des affaires que vous avez signées, c'est-à-dire, par exemple, je cite, la construction du village, non, des villages modernes, au Kivu, au nord Kivu surtout, et au sud Kivu, et un village moderne devrait coûter 250 millions de dollars. Ça, pour le Rwanda, c'était des affaires. C'est-à-dire, si le Rwanda gagnait, en effet, la construction de ces villages modernes, si elle en construisait 4, elle aurait plus de 1 milliard de dollars. Or, la coopération bilatérale ne donne au Rwanda que 100, les États-Unis, hein, ne donne le Rwanda que 147 millions, on a essayé de fouiller pour voir, 147 millions de dollars de coopération bilatérale. C'est-à-dire, un village moderne que la RDC, ce marché que la RDC, et le président Tshisekedi, je ne parle pas de l'ère Kabila, je parle de l'ère Tshisekedi. Et le président Tshisekedi avait accepté. Non, on ne peut pas faire des affaires avec des gens et puis leur tourner le dos pour dire je m'oppose. Ces gens, ce sont des félins. Et les félins ne tolèrent jamais. Et ils ont étudié, ils ont vu que le processus d'Addis Abeba, l'accord cadre d'Addis Abeba, qui permet en effet aux États de ne pas faire ingérence, vous n'avez pas capturé les intérêts en attaquant ces gens en justice. Nous parlons bien du Rwanda expédié. Le président de la République peut réunir ses poulains ou je ne sais pas comment vous avez dit, sa famille politique et dire à ces gens, même si on arrivait à être devant la porte de marche, ça là c'est grave.
C'est ma question en fait. Faut-il réellement, parce que c'est la question qui divise aujourd'hui les deux pays autour de ce processus,
oui.
Faut-il dialoguer directement avec le M23? Parce que dans le passé, il y a eu dialogue avec le CNDP et consorts.
Le président de la République est psychologiquement préparé. C'est quelqu'un qui est sur un ring où il est battu. Excusez-moi, je réfléchis comme un sportif. Qui est sur un ring où il est déjà battu 11 rounds. Il reste le 12e. Et il est en train de dire, même si ces gens arrivaient au bord de la porte de chez moi, c'est-à-dire le président de la République est en train d'accepter psychologiquement que le M23 va gagner toutes les provinces jusque Kinshasa. C'est ça la communication qu'il a faite. Et la communication qu'il a faite, Kagame l'a perçue. et il a perçu que l'égard est déjà faible. Il a accepté que nous allons le battre. Alors, pourquoi négocier? C'est ça que le président a dit. C'est une erreur grave. Au fait, qui prépare les textes du chef de l'État? Qui prépare ces sorties médiatiques? Il n'y a personne. Parce que les sorties que le chef de l'État fait, parfois, ça fait pitié. Parce que dire à sa famille politique que, bon, je suis conscient que ces gens vont gagner du terrain, ils sont sur Lubero. Lubero n'est pas n'importe quelle ville, c'est stratégique. Ça prépare sur Butembo. Et nous savons tous que Butembo est un point de capture économique pour l'Ouganda. C'est-à-dire, on se prépare, je ne suis pas un prophète, mais on se prépare à une autre guerre entre deux nations, c'est-à-dire l'Ouganda et le Rwanda, à Butembo, comme ils ont fait en 2000 à Kisangani. Expédie. Allons-nous attendre que les sangs des Congolais soient encore versés pour dire on va refaire des accords? C'est parce que je suis presque sûr que le M23, tel qu'il est en train de prendre du terrain, il sera difficile. Regardez vous-même comment le chef de l'État vient de faire un remue-ménage dans les cabinets militaires, militaro-politiques. C'est-à-dire, on déplace ce général qui était à la DEMIAP, on les place, je ne sais pas, dans la sécurité de je ne sais pas quoi, on prend celui-là, on le déplace là-bas. Ça, ce n'est pas une réforme. Quand je parle d'accord d'Addis Abeba, on réfléchit sur des réformes, c'est-à-dire des réformes vraies, et les institutions internationaux et régionaux, et en commençant par la RDC lui-même comme État, étaient prêtes à réfléchir sur la poche pour que cela se fasse. Alors, on mettrait le Rwanda et ces autres pays qui nous envoient des groupes armés dos au mur pour dire vous avez signé ceci, vous ne l'avez pas fait. Le mécanisme d'Addis Abeba l'avait prévu. On devait avoir une réunion chaque année où on évalue les situations. Qui a accusé qui? Parce que ça s'était déjà fait. Déjà à Goma, il y avait un groupe d'experts qui devait venir voir la situation entre les deux. Là, c'est dans l'accord. Entre les deux provinces, qui a soutenu qui? Pour dire, il faut arrêter. Et la pression internationale pourrait peut-être nous aider. Parce que, je suis presque sûr, regardez bien, nous serons ici à Bukavu, ou au sud Kivu, en train de crier encore nos terres qui sont mal exploitées par des Chinois. Les Rwandais savent. C'est-à-dire, il suffit d'un rien pour que les M23 envoient, ils sont à Bweremana. Pour ceux qui connaissent le terrain, Bweremana, c'est-à-dire Minova. Il n'y a rien qui bloque ces gens pour entrer à Binova. On a comme ça mis le pays, la sécurité du pays entre les mains des étrangers. Vous mettez les Burundais dans toute la partie ici. Ça, c'est un micro de, c'est un studio de radio. Il y a des choses qu'on ne dirait pas qui relèvent de la sûreté de l'État. Merci. Mais écoute, merci déjà.
Je reviens vers vous tout à l'heure, s'il vous plaît, Roger. Madame Néné, vous revenez d'une conférence à l'étranger. Vous étiez en Angola. Plus précisément à Luanda, pour une activité de la CIRGEL. Comment les autres perçoivent la question qu'on vit en République démocratique du Congo? Vous réfléchissez sur des stratégies à proposer en vue d'aboutir à une paix dans la région?
Merci beaucoup, Expédie. La société civile du Sud Kivu suit de très près les processus. On a été à Luanda deux fois déjà. On a été même à Nairobi également. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'on n'est pas compris. Toutes les pistes que nous proposons, on ne les prend pas au sérieux. Et c'est très dommage. Bien sûr, la guerre que nous a imposée le Rwanda, comme l'a dit le professeur, c'est une guerre d'abord économique. Et le Rwanda fait la guerre par procuration. Parce que même un citoyen lambda ne saurait pas comprendre comment un petit pays comme le Rwanda peut battre la RDC, numériquement même par là. Est-ce que qui peut comprendre ça? Mais, souvent quand on est dans des négociations, on n'est pas constant dans nos positions, nous, de la RDC, notre gouvernement. Est-ce que vous savez qu'avant, le M23 était déjà défait totalement en 2013?
Kabila l'a réussi.
Et seulement, les choses reprennent en novembre 2021, quand il y a un accord entre le Rwanda, non, entre la RDC et l'Ouganda, pour construire la route qui passe par Bunagana, Kasindi, tout ça, le Rwanda a dit, mais je ne veux plus contrôler les choses, il faut que je rentre. Et pendant ce temps, notre gouvernement a commis la grosse erreur de recevoir le M23 à Kinshasa.
Ça, on a appris pendant 14 jours. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. La deuxième des choses, il y a la communauté internationale, le prof y est revenu, qui manifeste une complicité qu'on ne sait pas comprendre. C'est les plaidoyers de la société civile qui a fait assez qu'on lève l'embargo d'achat d'armes contre la RDC. On a pris l'embargo. Depuis plus de 30 ans, on était sous embargo. Mais on vous demande, vous êtes agressé, vous devez vous défendre, mais vous n'avez pas le droit d'acheter les armes. Et là, on a dit à la communauté internationale en décembre à Nairobi, mais pourquoi vous pouvez demander à la RDC de se défendre? Il est sous embargo. La troisième des choses, quand on parle de la communauté africaine aussi, nous avons l'Union africaine. Mais le président de la Commission africaine, c'est qui? C'est Moussa Faki, c'est un allié du Rwanda. Pendant que nous avions la présidence de l'Union africaine, nous avons oublié de nommer des Congolais dans cette structure-là. Nous sommes presque totalement absents au sein de la SADC, au sein de la CIRG. Donc nous ne sommes pas là, mais les Rwandais placent des pions qui sont dans toutes les commissions. Et quand on négocie...
Le Rwanda gère même la francophonie.
Oui, ils ont toujours eu une avance sur nous. Ils ont eu la francophonie alors que c'est un pays qui parle le Kinyarwanda. La langue officielle, c'est le Kinyarwanda.
Et à côté de l'anglais.
Mais et ça, je l'avais dit à l'ambassadeur de France quand il est venu ici. J'ai dit, mais cessez de tromper les Congolais. Vous donnez l'OIS à Mushikiwabo et vous demandez encore qu'il puisse auditer les fichiers de la RDC. Mais on est dans quoi? Quand on est parti à Luanda pour la première fois, c'était les femmes. Les femmes se sont révoltées, les femmes de la société civile. On n'est pas parti avec même l'argent du gouvernement congolais. Ce sont des associations qui se sont cotisées. On est parti, on a dit, on ne comprend plus rien ce qui se passe dans ce processus. Et heureusement qu'on a trouvé Lorenzo. On lui a parlé, on lui a dit les astuces que les Rwandais ont toujours utilisées. Les Rwandais ont dit, nous entrons au Congo, nous agressons la RDC parce qu'il y a les FDLR. Nous agressons la RDC parce que les Tutsis congolais sont menacés. Mais est-ce que ces deux arguments tiennent debout? Les FDLR ne vieillissent jamais et ils ne meurent jamais. Ah, écoutez, après le génocide, mais c'est la RDC qui continue à subir les plus grands, les lourds tributs de ces génocides rwandais. On a laissé encore l'opération turquoise, les Français encore une fois. On a laissé entrer les hommes en armes, tout ça, ils sont arrivés chez nous. En 96, il y a eu la guerre dite de libération avec les Rwandais qui ont contrôlé toute la partie. En 98, la guerre dite de rectification. Et ils se saluaient toujours avec les FDLR. Ils ne les voyaient pas, ils ne les traquaient pas. Jusqu'à ce qu'on est arrivé au dialogue intercongolais à Saint-City, M+4, c'est lui à qui on a confié la défense et la sécurité en Tutsi congolais, à Jarias Rubera. Après, élection, après, à Manileo, on a officiellement, la RDC a officiellement invité les Rwandais à venir traquer les fameux FDLR. En 2008 et en 2012. Et jusqu'au point, ils ont dit, nous avons décapité les FDLR. Mais aujourd'hui, notre gouvernement va à Luanda et dit, nous acceptons un plan de neutralisation des FDLR. Mais dans les 145 territoires où se trouvent les FDLR, bien sûr, on dit que quand ils arrivent au Rwanda, on les recycle. Il y avait les Utauka avec les DDR, Monisco, tout le temps. En fait, même à Luanda, quand on y est allé pour la deuxième fois, il y a eu toutes les femmes de la sous-région qui étaient avec nous. Et la présidente de la commission de PDDRC, je peux ainsi dire, du Rwanda, avait reconnu le rôle qu'avait joué cette commission pour rapatrier tous les combattants qui étaient chez nous. Elle avait dit devant tout le monde. Et mais quand notre gouvernement dit, nous acceptons de neutraliser. On oublie aussi qu'on a les Hutus congolais, qui sont dans les Rutshuru, les Masisi, parfois on a tendance à les confondre. Un deuxième argument, on dit non, on protège les Tutsis qui sont menacés. Mais qui menace les Tutsis? Les Banyamulenge, la question a déjà été réglée par notre gouvernement. Ils sont congolais comme nous. Preuve, même le président venait de nommer le général Pacifique Maxunzu, qu'on connaît, qui est un patriote, à la tête de la troisième zone de défense, le site Kivu. Maxunzu, lui, n'est pas dans cette logique-là du Rwanda, de vouloir dire que voilà. Lui a accepté d'être déployé au Kassai, il a été au Katanga, on a beaucoup d'espoir en lui qu'il va faire quand même quelque chose. Autre chose, Récemment, quand on a été à Luanda, il y avait, maintenant on a élargi pour toutes les femmes de la sous-région, on a été même au Burundi, on parle toujours de ces questions. Mais on se rend compte que les experts, il n'y a pas de lien entre eux et les bas peuples que nous sommes. Nous avons le professeur qui est là, qui a de la matière. Nous avons la société civile, la fondation Pazel, qui maîtrise très bien les contextes. Mais chaque fois qu'on quitte Luanda, le président Lorenzo nous demande toujours de rencontrer nos experts. Mais ils sont introuvables. Vous allez à Kinshasa, 2 semaines, 3 semaines, ils ne vous reçoivent. On a déjà fait, de juillet à décembre, j'ai fait 4 tours à Kinshasa pour chercher à parler au président de la République, chercher à parler à notre ministre des Affaires étrangères, lui dire notre opinion, nous. Même notre parlement n'est pas au courant de ce qui se passe à Luanda. Les gens, ils vont là-bas, ils signent des histoires, mais le parlement n'est pas informé. Récemment, il y a eu, avant les experts, il y a eu le président Biden qui est arrivé.
Oui.
On sait qu'il doit quitter le pouvoir. Ouais. Il a déjà quitté le pouvoir. Le 20, Trump prend le pouvoir.
Ouais, ouais.
Et on vous dit, voilà, l'effort de Lobito, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que ça vient faire dans le processus de Luanda? Ça vient faire quoi? Et on apprend qu'il y avait aussi une délégation rwandaise au même moment.
Mais pourquoi pas?
Et notre président a fait le déplacement encore une fois.
Pour la photo.
Le président avait déjà un programme ambitieux pour les ports à nos profondes de Banana.
Banana, oui.
Voilà les ports qui nous intéressent, nous, les Congolais.
Justement.
Mais on dit, voilà, Lobito et les minéraux doivent quitter la RDC pour aller jusque-là. On a aussi un problème de positionnement stratégique. Aujourd'hui, nous sommes avec qui? Avec les Russes?
Avec les Chinois?
Avec les Américains? Avec qui? Et qui nous aide dans tout ça?
Merci, madame.
Au même moment, je vais citer, il y a l'Union européenne. Vous avez suivi, l'Union européenne arrive à Kinshasa, voilà. Nous sommes déçus parce qu'il n'y a pas un accord. Mais la même Union européenne a signé un contrat de commerce de minerais avec le Rwanda.
Voilà.
Sachant très bien que le Rwanda n'a pas de gisement, mais on signe les contrats. Nous demandons à notre gouvernement d'aller faire un plaidoyer à l'Union européenne pour qu'on annule ces contrats. On n'accepte pas. La même Union européenne donne 20 millions d'euros à l'armée rwandaise, soi-disant que pour son intervention au Zimbabwe, ouais. Au Mozambique. Mais indirectement, c'est nous qui sommes visés. Donc moi, je pense que on doit être sérieux quand on négocie et tenir compte du piège toujours que nous a tendu le Rwanda. La stratégie, c'est laquelle? C'est talk and fight.
Bien sûr.
Donc, au même moment, nous sommes dans les négociations. Ils récupèrent la Sicile et nous taisons.
Justement.
Il y a le plan il y a eu le cessez-le-feu qui a été décrété depuis le 4 août. Mais depuis le 4 août, les M23 ont déjà pris combien de localités? Ouais. Dans les Lubero, dans les Masisi, dans les Nyiragongo. Et notre gouvernement s'était. À un moment donné, on a compris que le gouvernement était déjà sur le point de mettre hors d'état de nuire les M23. On a vu les Sikoy arriver, tout ça, toutes ces opérations-là qui ont terrifié les Randa. Mais aujourd'hui, où sont partis nos Sikoy?
Voilà.
C'est parti où? Il y a un problème de trahison sur terrain. Il y a un problème de détournement. Tout ça, la population, la société civile documente. Mais qui nous écoute? Qui prend au sérieux tout ce que nous donnons comme dénonciation?
Merci, maître Néné.
Donc, moi, je pense qu'on doit être sérieux, on doit être patriote. On doit être sérieux avec nous-mêmes. La guerre ici, quand vous parlez même avec nos officiers, les Oazalendo, tout, ils vous disent ça ne peut même pas prendre 2 semaines.
Voilà.
Mais il y en a qui ont déjà trouvé le business de la guerre,
Joseph,
qui construisent des immeubles à Goma, à Kinshasa, et ne veulent pas que la guerre se termine et c'est la population qui souffre.
Merci beaucoup, Joseph. Quelle issue ou quelle chance accordez-vous au processus de Luanda, surtout après le raté de dimanche dernier?
Deux possibilités. Si Dieu seul sait comment jusqu'à quel point je ne suis pas d'accord ou je déteste le système, mais je pense que analyser de façon logique l'attitude de Kinshasa peut-être conduire à la folie, mais peut-être qu'il y a une logique dont on ne sait pas comprendre, peut-être qu'il faut les rejoindre. Et elle serait laquelle? À un moment, je me suis posé la question, bon Dieu, comme je ne comprends pas, comment je fais? Bon, je vais commencer à me fabriquer des raisons. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce que le pouvoir de Kinshasa est en train d'attendre Trump? Je ne sais pas. parce que il est quand même
déjà arrivé.
Parce que en effet, non, l'administration Trump. Parce qu'il faut quand même reconnaître que l'administration Biden, c'est la même que celle Clinton, et que Clinton et des grands faucons ont joué un très grand rôle dans la déstabilisation de la région. Je me posais la question, Félix est en train de se dire, le président Félix est en train de se dire, je vais attendre l'administration Trump, donc je vais subir un peu de pression, comme ça, dès qu'ils seront là, je vais jouer une autre carte dans les négociations. Vous comprenez que là, je suis en train de me fabriquer des raisons, vous comprenez?
Les Américains sont les mêmes.
Bon, en fait, ils sont les mêmes, mais il y a une nuance d'approche. Alors, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est ce que le président Félix voulait faire. Si c'est le cas, alors il peut y avoir une sortie, une voie de sortie. Elle serait laquelle? Comme l'administration Trump, elle est celle qui négocie, c'est le donnant-donnant, alors, en ce moment là-bas, on peut y aller avec une très belle offre, parce que Trump déteste à en mourir la Chine parce qu'elle menace son hégémonie, l'hégémonie des États-Unis. C'est et ici, vous venez de poser la question de qui sont nos alliés. Alors là, l'administration Félix va prendre officiellement position dans la lutte de l'hégémonie mondiale pour les Américains, en garantissant aux Américains qu'ils vont contrôler les ressources du Congo, qu'ils vont faire la traçabilité, mais à condition qu'ils leur mettent à côté ça peut réussir, mais je ne sais pas si on a une vue commune, une vue très grande. Malheureusement, et c'est ça, c'est une très grande faiblesse de notre part, il fallait déjà s'approprier, être proche des gens qui font Trump, des Elon Musk et les autres. Mais quand Elon Musk, c'est un commerçant, donc il vous dit je vais mettre Stanley chez vous. On préfère être proche de Gates, de Bill Gates, et de laisser à côté le Elon Musk, alors que les autres là, ils utilisent déjà les technologies de Elon Musk. Et pour ces Tesla et les autres, vous voyez, on a fait la course à Apple, j'ai vu qu'on a déposé une plainte. Mais il faut avoir une très grande stratégie avec ces gens qui font Trump. Parce que si on a une très grande stratégie avec lui, alors on peut avoir une ouverture, celle, on fait la paix, mais entre-temps, cette fois, on réforme pour qu'à la prochaine guerre, on soit fort et capable de nous battre. Puisque la guerre, elle aura lieu. Qu'on l'accepte pas, elle est déjà là et elle va continuer à s'aggraver. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est par là, je finis par rapport à l'issue de ces négociations. Parce qu'en fait, moi, je suis dans le désespoir. Mais une fois encore, je reviens à notre peuple et là encore, je suis dans l'espoir. Mais le désespoir, il est celui-ci. La logique avec laquelle nous analysons le Rwanda, je me suis retrouvé qu'elle est fausse dès l'origine. C'est que, je l'ai déjà dit un jour sur ce plateau, la logique rwandaise, je m'excuse, j'aime tous les humains, je suis totalement en désaccord avec ce qui essentialise les gens, qui parlent de Bantou, de Tutsi ou de l'autre, ça c'est la logique des racistes, qui conduit d'ailleurs aux morts, mais malheureusement il faut comprendre que c'est ça la logique de nos adversaires. Eux, ils sont dans la révolution de leur, je ne sais pas quoi. Et pour bien le comprendre, il faut suivre le fils de Museveni. Et pourquoi je le cite, lui? Parce que après que nos aînés, nos parents, aient vécu avec Museveni et sa génération, maintenant notre génération va subir la pression de l'héritier de cette philosophie. C'est lui qui considère qu'il y a un empire IMA à construire, qui doit relier, vous voyez la route dont on parle, la construction qui a fait cette guerre. Je vais vous rappeler une chose que j'ai pris le soin de noter parce que je l'ai noté dans mes recherches. Le 12 septembre 1997, un certain Georges Rubagunia, vous savez, il était qui? C'était un grand commerçant, un grand businessman rwando-ougandais. Il a travaillé en Ouganda et puis il a travaillé avec le Rwanda. Il a été récemment le directeur de la banque de Kigali. Récemment encore. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très branché. C'est, en 1937, il a donné une interview à Colette Brickman. Et vous savez ce qu'il disait? Il parlait des derniers spasmes d'un pays mourant. Il y a des réfugiés qui meurent, des vaches qu'on tue, ainsi de suite. Mais sa mission au Congo, en cette période, il était à Goma, c'était de finaliser l'annexion de l'Est du Zaïre, qui était devenu le Congo,
en construisant la route là. Cette route dont on parle juste aujourd'hui, ça faisait partie de ces missions. Et ça a fait partie de raisons qui ont fait à ce que le Kinshasa, Kigali et Kampala voilà. se battent à Kisangani. Oui. C'était non seulement pour le contrôle des minerais, mais pour savoir la route commerciale, qui est la route de la soie pour eux, et elle passera par où. Vous voyez. Et donc, maintenant, ce qui m'a rappelé cette note, c'est que j'ai entendu le fils de Museveni revenir sur le fait qu'il louait le monsieur, il louait les salés, il y avait des grands militaires ougandais, il en faisait la louange et il a dit qu'ils doivent continuer et réussir cette lutte. Mais je me suis dit, mais Seigneur Jésus, donc c'est pas prêt à finir. Donc, conclusion, dans la logique révolutionnaire, dans la logique révolutionnaire de ces personnes, nous sommes en face des gens qui ne vont tous cesser que quand ils vont atteindre leurs objectifs. Et les objectifs, c'est ça le problème. Et nous, on est dans la politique de positionnement des postes, de contrôle des ressources, ainsi de suite. Et là, on va se perdre. Donc, et je rappelle que c'est l'annexion des territoires, c'est le contrôle des richesses, c'est l'expansionnisme, effectivement, le remplacement de populations, et ainsi de suite. Donc, nous, pour que ça change, il faut que le pouvoir de Kinshasa change de logiciel, la manière de réfléchir, reprogramme tout son concept. Et cela passe par l'unité. Et là, on est seul. Dans cette guerre, on est seul. Ni les Américains, ni l'ONU, ni les Chinois, ni personne. Il n'y a personne qui nous
aidera. Merci Joseph. Merci donc, prof, vous le dites souvent. C'est d'abord nous et non les autres.
Oui, s'il vous plaît, Expedi, pour ne pas faire de l'idée par rapport à ce que Dr Baraka venait de dire. Quand nous avons quitté Luanda, on a fait une déclaration à Goma, on a constaté un fait qu'on peut considérer comme bénin, mais qui est grave. Partout où le M23 a déjà récupéré les localités, il y a des populations rwandaises qu'on est en train d'installer là-bas. Et ça, on a dénoncé. Je crois même le chef de l'État hier est venu dans son discours. Donc c'est tellement dangereux, on doit quitter la distraction, on doit ouvrir les bancs, les Congolais doivent finir. C'est impossible de voir qu'en ces moments-là, Joseph Kabila connaît quand même les réalités de ce pays. Mais pourquoi il ne dialogue pas avec Félix? Pourquoi les opposants, pourquoi les autres? Cette division-là, l'ennemi en profite. Merci. Moi, je pense qu'il faut qu'on charge des fusils d'épaule, on doit mettre les deux pieds sur terre. Et aimer ce pays et savoir que dans cette lutte nous sommes abandonnés.
Merci
même beaucoup. Par la communauté internationale, nous devons nous prendre en charge pour
professeur, c'est d'abord nous.
Je disais que c'est d'abord nous. Si nous voulons sortir de ce cycle de violence qui nous empêche de décoller ou de redécoller, parce qu'il y a un moment où on était pays en voie de développement, maintenant on continue à descendre. Les voisins, ils ont suffisamment étudié, ils nous ont étudié suffisamment, ils nous maîtrisent. Notre ami l'a bien suivi. Maintenant, là, et ils savent qu'ils vont nous attaquer pour mettre sur pied leur plan. Et dedans, ils ont mis les échecs. Ils peuvent échouer aujourd'hui. Museveni peut partir.
Son fils est déjà bien formé.
Même son petit-fils est dans le plan. Ce n'est pas nous. Nous, je suis président de la République, il n'y a pas une place pour dialoguer avec l'opposition. Il n'y a pas une place pour dialoguer avec la société civile.
Avec l'ancien
Alors,
président.
Nous sommes dans quelle société? Et vous voulez gagner la guerre. La guerre, elle ne se gagne pas comme ça. La guerre se gagne dans l'unité. La guerre se gagne dans l'unité. Nous nous empressons pour dialoguer. Nous ne maîtrisons, il l'a dit, nous ne maîtrisons pas les enjeux de dialogue. Or, le dialogue pour les autres, c'est un moment de distraction pour se réarmer davantage et gagner des terrains. Mais quand vous allez dialoguer en position de faiblesse, vous allez tout perdre.
Voilà.
Et pour y sortir, je donne trois positions. La première, il a dit, c'est rebobiner, changer le logiciel.
Ouais.
Et repartir sur de nouvelles bases. Si pas à zéro, on peut garder quelques ingrédients dans les logiciels et partir. Et là-bas, nous devons nous assurer si il y a l'unité nationale et la cohésion qui nous permettrait de mettre en moule toutes nos intelligences. Si on n'y arrive pas, nous avons un deuxième plan, c'est l'utilisation des armes d'autrui, mais pas pour longtemps. Et qui est ce autrui que nous allons amener dans notre projet? Parce qu'on est incapable. Il faut quelqu'un pour nous aider. On a cité Trump. Trump, des fois, il dit les choses le matin, à midi, il change. On ne le maîtrisera pas, parce que même Kabila pensait que c'est à lui qu'il fallait s'asseoir. Hein. Mais on lui a dit, tu vas quitter le pouvoir, pas de changement de constitution. Il y a un auteur classique qui parle de l'utilisation des armes d'autrui, Machiavel, et il conseille, il dit, attention, quand vous utilisez les armes d'autrui, ce n'est pas pour longtemps. Il risque de se tourner contre vous. Là, il y a danger. Si nous ne sommes pas capables de se déprocéder, alors négocions.
Voilà, merci beaucoup. Roger, 30 secondes également pour atterrir.
Merci beaucoup. Le prix Nobel, s'il a cité l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est parce que tout se trouve dedans, tout ce qu'on est en train de négocier. Que ce soit les groupes armés, que ce soit Kagame en présence. En fait, je nous sais que le prof vient de dire, pour le président de la République, que je trouve ne maîtrise pas les enjeux, s'il discutait directement avec le président Kagame, alors là encore, par rapport aux enjeux, c'est nous qui perdons. Kagame, quand il vient avec un agenda. Il vient avec un agenda de son pays d'école, mais aussi l'agenda de la fierté internationale. C'est-à-dire, il place les grandes du monde au premier plan. Il avait dit que moi, ma personnalité, c'est être le Léopold II d'Afrique. Le Léopold II d'Afrique, c'était avoir un grand espace mais tout, où tout le monde est roi. Et moi, je serai votre valet. C'est ce qu'il avait dit au grand du monde. C'est-à-dire, pour nous, il ne manque rien à ce pays que le président de la République et tout ce qu'ils font la politique de ce pays au sommet de l'État réfléchissent sur comment est-ce qu'on va, mon frère Barak avait parlé de APOL, comment est-ce qu'on va amener APOL en justice, qui en effet est un receleur, et on laisse le vrai bourreau, le vrai voleur. Le vrai voleur, c'est le Rwanda. Nous sommes victimes, en fait, apparemment d'un vaste complot de gens qui se trouvent au niveau du sommet de notre État. Il faut qu'à notre, au niveau de notre de l'État, on sonne l'éclat et que on traîne le Rwanda devant la justice internationale.
Voilà.
On l'avait déjà fait avec l'Ouganda. Qu'on le fasse avec le Rwanda, et les mécanismes existent.
Merci beaucoup.
Pour traîner le Rwanda. La deuxième chose, si vous permettez, la deuxième chose, c'est de réformer l'État, c'est de réformer les institutions, de réformer la police, l'armée, notre appareil de sécurité. Qu'on les réforme. La troisième chose, c'est de vivre en symbiose avec le peuple. Par rapport à l'agression, le peuple ici, nous sommes de tendances peut-être différentes des églises, de politique, ainsi de suite, mais nous avons le même langage par rapport à notre mère patrie. Par rapport à notre mère patrie, nous disons le Congo ou rien. Si nous disons tous ici le Congo ou rien, c'est-à-dire nous pouvons nous battre. Et prof, je pense que si le Kivu était un État, il résisterait peut-être au Rwanda mieux qu'avoir un pays qui a des dirigeants à 2000 km qui disent que la guerre, là, nous l'entendons qu'à la radio. C'est-à-dire, il faut faire attention. Je ne peux pas dire qu'on balkanise ce pays, ce serait pauvre. Mais si déjà nos petits royaumes résistaient au Rwanda, si nous agissons comme un peuple, je ne dis pas comme population, je dis comme un peuple, c'est-à-dire âme d'une nation, nous pouvons contrer toutes ces velléités-là.
C'est avec ce mot que nous terminons le développement de ce jour, un message interpellateur qui nous appelle à l'union, à l'unité pour barrer la route à l'ennemi. Merci donc à tous les invités, merci à vos chers auditeurs pour l'attention soutenue. Bon dimanche et surtout bonne fin de l'année 2024. Joyeux Noël également.
Merci.